Alright. Now ladies and gentlemen, this is Rockers.
Et
Tom Fringant. Ah, faut pas que je me retrouve sans oublier.
C'est déstabilisant.
Et Roger Fracasse.
Voilà, Roger Fracasse pour les Grignoux, par le Grignoux tous les mercredis en pleine crise de déstructuration en ce moment. Vous voyez, on mélange un peu tout. On fait chier Jean-Loup. C'est même plus lui qui a le droit de dire en premier bonjour.
Oui, je vais bien dire bonjour.
On mélange nos prénoms et nos noms, Tom et moi. Voilà, la déstructuration, une espèce de vent neuf qui souffle, un peu une espèce de révolution culturelle sur, dans l'émission des Grignoux, et ça va nous faire du bien. Les vieux miasmes de l'hiver.
Un coup de jeune, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se
du
débarrasser.
Du jeunisme, mon
bon. Il faut se débarrasser des vieux, quoi. Vous êtes en train de vous tirer de...
Non, on n'est pas en train de se débarrasser de toi, Jean-Loup. Tom, tu as bien dégonflé ces pneus.
Oui, justement.
Jamais je ne me débarrasserai de celui dont je dois quand même encore une fois de plus la vie, pas plus tard que vendredi dernier, mais je ne rentrerai pas dans les détails, ça ne regarde pas.
Ah non, parce que
histoire.
Massage cardiaque, je veux bien. Ça, j'ai l'habitude. Bouche à bouche.
C'est la dernière fois.
Quand j'avais les pompiers, faites-lui du bouche à bouche. J'ai failli vous dire,
la dernière fois,
mort,
Jean-Loup, je vous le promets.
Eh ben, j'ai fait.
Vous
en souvenez plus.
Je me souviens que je vous dois une vie, vous savez, comme chez les Indiens. Je vous dois pas mal de vies.
Bref, vous écoutez les Grignoux sur les mercredis. Alors, normalement, c'est 20h. Ils sont sympas, l'émission avant, mais.
C'est toute une bande de jeunes. Ils ont des tambourins, des flûtios, des sitars.
Moralité, on commence 10 minutes en retard. C'est pas notre faute, toi,
mais bon. Nous aussi, on a le droit d'aider la jeunesse.
Oui, c'est vrai.
Et c'est pourquoi on ne leur en veut pas. Et ça nous permet d'accueillir nos invités pour un invité qu'on présentera tout à l'heure.
Voilà, un petit disque.
Yeah, you don't know where they've been. Rockers, every male, don't eat that in jail.
voilà, un excellent morceau de la programmation à Roger. Ah, 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 ça vous bien, remue bien. Un petit peu les neurones de la musique de sourd comme j'aime. Tout ça pour dire que nous sommes encore une fois dans le cadre d'une émission
bourrée.
Voilà, bien. Complètement bourrée puisque nous recevons ce soir monsieur Pascal Sacleux. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes un peu grand. Je vais vous conseiller de hausser votre micro, voilà.
En fait, pour être honnête, vous lui fichez la trouille.
Hein, ouais, Roger, ouais, moi ouais. Je fais pas le mariole. Enfin, en tout cas, vous allez, on va voir comment se terminera l'émission. Et vous inquiétez pas, je ferai pas comme Giuliano. Et comment dire, ça, c'est une private joke avec Jean-Loup. Bref, nous recevons monsieur Pascal Sacleux, dont on a découvert l'existence à travers la revue Bikini. Ouais, ben moi j'aime bien aussi quand on cite nos sources parce que c'est un excellent petit magazine, on va dire, que je trouve à Canal B,
notamment,
à Canal B, ouais.
Entre
autres. Et vous bénéficiez d'un article justement qui annonçait cette expo justement à l'aéroport, il y avait les dates, etc. Donc pour un projet bien avancé, une expo photo sur les roues, parce que vous êtes photographe, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Voilà, alors un mot, deux mots, faut qu'on aguiche un peu le client hein, pour qu'il revienne dans une demi-heure après la semaine des grignoux. C'était quoi votre objectif principal ? C'était
L'objectif, c'était mettre les roues en avant, les roues, les gens avec les cheveux roux.
Ah, parce qu'au départ, moi, je croyais que c'était les roues de voiture.
Les roues d'avion. Tout le monde pense ça quand je précise ça.
Et moi, je précisais le roux pour, vous savez, pour la cuisine. 150 grammes de farine, un petit des œufs, etc.
Et du beurre chauffé, ouais, c'est ça.
En fait, non.
Voilà. Et en tout cas, vous avez réalisé une œuvre exceptionnelle qui est visible encore en ce moment, au moment où je parle, à l'aéroport de Rennes. Et on se croirait, c'est bien sympa, Dublin. Quand on arrive, c'est derrière les bureaux d'enregistrement. On a des grands panneaux. Alors, je dirais à vue de nez, au moins, c'est du... Combien? 3 mètres, 4 mètres sur je sais pas combien?
Il y a un panneau de 2 mètres sur 3 et 30 panneaux de 1,20 m par 1,80 m.
Ouais, donc des panneaux énormes derrière les bureaux d'enregistrement et c'est les guichets d'enregistrement et c'est assez génial.
Bref, on en saura un petit peu plus en deuxième partie d'émission. Parce que je crois qu'il y a une voiture à gagner aussi, si j'ai bien compris. En parlant, c'est pas très clair cette histoire.
Vous avez décidé de l'énerver, moi je m'en fous, vous êtes à côté. Moi je suis en face, même s'il va vite, je pourrais encore me planquer sous la table.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé qu'il avait aussi une autre activité qui apparemment... vous intrigue un petit peu.
Ouais, c'est-à-dire que non seulement vous êtes photographe, mais vous êtes, on vous a vu dans le cadre, on peut le dire, de votre métier, donc agent d'enregistrement à l'aéroport de Rennes, et vous êtes également professeur d'arts martiaux.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc vous mesurez à peu près 2 mètres, je dirais 80 kilos, que du muscle. Autant dire que moi, en tout cas, je ne vais m'en tenir qu'à mes fiches.
Allez, un petit disque, c'est parti.
A girl trying to give you a hand job all day long. She's just a girl, don't you call her on the phone. Oh, you're a man, just a man indeed. I'm proud to fry your meat. Ain't got the time. The clock is ticking, gotta hurry to make a dance. She's just a girl trying to give you a hand job all day long. She's just a girl, don't you call her on the phone. Oh, you're a man. She's a girl in need. You gotta pack your meat. Damn, girl, the time. The clock is ticking, gotta hurry to blow her kiss. In studio, she's lying in his cup. This girl's afraid of studio. In studio, she's lying in his cup. This girl's afraid of studio. In studio, she's lying in his cup. This girl's afraid of studio. In studio, because she's on me. Don't hesitate. She's just a girl trying to give you a hint.
day long. She's just a girl, why don't you call her on the phone?
C'est maintenant devenu une habitude, les grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
C'est ça Philou, t'as tout compris, c'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignou.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile.
Attendez, attends, attends, tu me laisses parler.
Vous avez
parler.
Ah, il est en train de me virer par la violence. Oh, et ça vous coûterait.
C'est ça, en fait, tu vois le truc.
Et oui, c'est ça la rubrique perso.
Rubrique à Jean-Loup, hein.
Buteur des structures.
Ah bah oui.
Bah ça change justement, ouais. Donc vous savez qu'il y a des élections présidentielles.
J'en ai entendu parler.
Oui, et qu'on est mercredi, on est le 17, je dis pas de bêtises,
ça, ouais.
Et que le gouvernement vient d'être nommé.
Ouais, avec un nouveau premier ministre qui s'appelle pas Gérard Philippe.
Bah le qui s'appelle Édouard Philippe.
C'est sûr que c'est Édouard.
Édouard.
Oui, c'est Édouard. C'est Édouard Philippe. Ouais, alors on va l'appeler. Allez, appelons-le Gérard.
Un truc. C'est marrant que j'ai entendu d'un
j'ai
humoriste.
Gérard Philippe. Ouais.
D'un humoriste, ça c'est un type qui a deux prénoms et qui essaie de se faire un nom. Ah, voilà, là, parce que personne ne connaît. Alors, quoi. J'ai trouvé c'est assez fort. C'est pas de moi. Là.
Un peu à l'image de notre invité de ce soir, il paraît grand, baraqué, il fait de la boxe. Alors attention à ce que vous dites. Il est barbu maintenant.
Oui,
il peut venir chez vous. Il veut te casser la gueule.
Ouais, mais la barre. Vous avez vu.
Il est barbu.
Du coup,
il est barbu.
On découvre le personnage. On le voit il y a quelques années où il a un visage quasiment poupin, tout rond, sans barbe,
c'est
gentil
la mode,
quoi.
La barbe.
Et ouais, mais lui ça lui va bien, lui.
Oh, c'est lui donne, c'est lui donne... votre gueule. Mon...
Il a ça lui donne un air autoritaire, etc. Et là, puisqu'on parle d'élection, on parlait justement de politique.
Non, mais pourquoi vous restez pas sur le père Gérard Philippe?
Édouard Philippe. Bah, je sais pas, je connais pas, il est maire du Havre.
Parce c'est qu'il que a pas si fait grand chose. Vous aviez fouillé un peu.
Oui, il a pas fait grand chose.
Oh, tiens, il a pas fait grand chose avant, il a travaillé pour plein de choses. Alors, il a d'abord été, en politique, il est rentré d'abord, socialiste. Il était socialiste. Puis après, il est devenu, UMP, tendance
oui,
Juppé.
Oui.
Il est même devenu, d'ailleurs, le porte-parole de Juppé pour les dernières primaires de la droite. C'est vous dire s'il était quand même proche du père Juppé. Donc, on pense quand même que le père Juppé est un petit peu dans les manigances de ce qui se passe dans le renouvellement dont on assiste aujourd'hui.
C'est le maître du jeu, c'est pas Juppé. Hein. Je pense
alors Édouard Philippe, il a brillé quoi? Il a pas brillé à l'Assemblée nationale parce que il est classé en 478e place sur 504 dans le classement établi dans Capital sur le nombre de députés les moins actifs de la législature finissant.
Bah, on peut pas être maire et député. Hein. Ça,
bah, voilà,
on non cumule des mandats. Quoi.
Donc il était à la 478e place en termes d'assiduité. Il n'a pas fait une proposition de loi, pas fait un projet de loi et il a juste vaguement signé des amendements. Et il a assisté à 124 fois à des commissions, sachant qu'au total, sur la législature, il aurait pu en assister à 400. Alors, je sais pas s'il avait des emplois fictifs dans son groupe, lui, mais en tout cas, il n'a pas branlé grand chose. Et c'est peut-être ça, sur moi, qui doit nous rassurer. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement qu'il a travaillé pour Areva? Areva, je tiens à vous le rappeler quand même que c'est ceux qui bossent un peu pour le nucléaire. Et il a, été pas mal dans un espèce de lobbying forcené autour de, vous savez, des mines dans le Niger. C'est pour ça que de temps en temps, on nous pique des techniciens, les barbus nous piquent des techniciens dans le coin-là, parce que dans le Niger, on creuse pour shipper de l'uranium. Alors, je sais pas quel symbole, quel signe ça va donner, justement, sur la politique nucléaire future, mais en tout cas, c'est un petit gars qui a des trucs un peu partout. En termes aussi, également, pour la législature socialiste, il a refusé de signer, il a voté contre la loi de transparence, vous savez, la loi sur la transparence, de la, justement, qui le gêne un peu, qui, pour nommer les ministres, c'est-à-dire que les ministres, bah voilà, c'est nous tout nouveau, doivent dire tout ce qu'ils ont comme sous véritable.
Il a quand même, comment dire, il s'est pas abstenu, lors, du vote pour le mariage gay.
Ouais, il s'est abstenu, il a même pas voté pour.
Il s'est pas abstenu, il a fait ça, au moins, là, sur les, il y avait 44 députés sur les Républicains.
Ouais, il s'est abstenu.
Qui sont pas abstenus, qui ont voté pour.
Ah, il a voté pour,
bien sûr.
Et ben oui, ben d'accord, mais à non, part mais attendez, ça, ok.
Lobbying
pour Areva, j'ai fait. Et si, et le dernier truc, vous m'avez coupé.
Oui,
le dernier
désolé.
Truc.
C'était ma rubrique, désolé.
Ouais, mais c'est pas grave. Il faut pas laisser faire des choses, dire des choses, des trucs. Et vous m'avez coupé. Donc, et il avait également refusé de signer la loi sur la transparence. Et il a eu un blâme parce que quand on lui a demandé de, en tant que député, d'annoncer ses biens. Et comment dirais-je, il a balancé aucune idée, je comprends pas votre question, etc. Et ce monsieur a eu un blâme et un rappel à l'ordre pour avoir bah, un petit peu quand même refusé de, comment dirais-je, d'exposer un petit peu ses biens. Voilà, bah, c'est le nouveau Premier ministre de droite.
Bah oui, bien sûr.
Ah, il est de droite,
oui,
il est l'air.
Mais c'est là où il est extrêmement malin. On en parlait justement dans la voiture en parlant de stratégie politique. Etc. Macron, il est excellent. Il a explosé le Parti Socialiste qui va mettre, je pense, quelques décennies à s'en mettre s'il ne disparaît pas complètement. Et là, il est en train de foutre en l'air les Républicains.
Parce que c'est il n'a même... pas chopé grand monde. Il a chopé
attendez,
le maire.
Attendez, déjà le Premier ministre juppéiste. Hop. Donc, il y a déjà un paquet justement qui dit, oh, bah oui, bah finalement, Emmanuel, je suis prêt à bosser avec toi, etc. Et il va en train de foutre de la merde, de la zizanie. C'est-à-dire que les juppéistes, ils vont dire, ah, pour qui je vote? Pour les Républicains ou pour, je sais plus comment il s'appelle, Républicains?
C'est vrai que tout va dépendre. Vous avez raison de le rappeler.
C'est,
hein. C'est vrai que c'est une espèce de gouvernement de publicité, une espèce d'effet d'annonce, une affiche. Et il se trouve qu'effectivement, à partir de ça, vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est que, ben voilà, là, il nous met Nicolas Hulot, comment dirais-je.
Non, ce qu'il lui faut à Emmanuel...
Non, mais attendez, je finis. Il nous fait une espèce d'affiche alléchante.
Non, mais là, vous parlez du nouveau gouvernement.
Voilà,
là, oui, mais je parlais
Une affiche alléchante. Et après les élections, ben, si par exemple l'UMP a pas mal de voix, et ben, il va virer des centristes pour mettre de l'UMP, enfin, pas l'UMP, les Républicains, etc.
Là où il est emmerdé, c'est soit il a une majorité absolue ou soit il a une majorité relative, comme on dit. Et là, il a fait un gouvernement au cas où la majorité relative passerait. Le consensus, il y a un truc...
Non, enfin, sa majorité à lui.
Voilà.
Lui, il avait la majorité.
Mais ça, pour moi, j'appelle ça gouvernement de législative. Si jamais la majorité absolue, il y a de fortes chances que ça dégage.
Bah non, justement, s'il a la majorité absolue avec un gouvernement...
Il change de gouvernement,
parce que moi, quand j'ai vu la... Je vous dirais franchement, quand j'ai vu la tête d'Édouard Philippe, je me suis dit, oh, on va bouffer, parce que déjà un LR, même tout jupéiste qu'il est, je vous rappelle quand même que JP promettait quand même près de 300 000 emplois supprimé dans la fonction publique, bon.
La différence entre Fillon et Juppé, c'est vrai, c'est la vaseline.
Et, bah ouais.
Ils arrivent au même but, mais
et pas
ça
de
fait cato, pas moins mal.
Avec Juppé, on n'aurait peut-être pas eu de cato, comment dirais-je, genre sens commun au gouvernement. Mais ceci étant, avec la politique de comment d'Édouard Philippe, ça va quand même être la casse, parce que le maire, il n'est pas véritablement à gauche non plus, il est au ministère de l'économie, c'est pas un monsieur qui va rigoler. Donc, je sais pas quel effet d'annonce est fait. Alors d'un côté, il y a Hulot pour épater la galerie, et de l'autre côté, il y a quand même deux comment chancre mou de la droite qui vont quand même pas mal taper sur les acquis sociaux, sûrement péter le code du travail avec des ordonnances dont on dit qu'elles sont démocratiques. Je vois pas en quoi le terme d'ordonnance.
Bah,
qu'il a
si à partir du moment où c'est dans la constitution, dans la constitution, c'est normal. Hein,
on l'a dans le cululu. Mmh. Et il serait peut-être bon qu'avant que les gens mettent leur butin dans l'urne sans contrepétrie, ils réfléchissent.
Oui, mais bon, il est malin, il est malin.
Ah, il est malin, il est malin.
Tout le monde le prend pour le petit branleur qui déboule de nulle part.
Et il est jeune, on va le gober longtemps.
Oui, parce que, et pareil, ça va coûter cher longtemps à la République.
Alors bon, il y a l'effet nouveauté, là on est un peu perturbé, on s'est fait chier 5 ans avant Hollande. Avant, Sarko, c'était cool, il soulevait un caillou, c'était le bordel, il y avait 200 000 personnes dans les rues, c'était rigolo. Sauf qu'avec Hollande, ça a été, hormis quand même avec sur le grand succès de la loi El Khomri, quand même, qui a fini de flinguer son mandat, ça a été d'une mollesse. Avec Macron, tout est neuf. Quoi, tout est neuf quand on voit le vieux Bayrou.
Bah, c'est inédit sous la cinquième, quelque part. Un mec qui sort de nulle part, les gens qui sortent de nulle part. Par contre, le seul reproche, si on continue dans le gouvernement.
Le seul?
C'est l'armée. J'avais pas mis de gonzasse, moi, à l'armée. Je sais pas. Il y a des trucs, je sais pas, voilà.
On avait eu quand même.
Quoi, il faut égorger à main
nue. On a eu des précédents avec l'autre vieille folle, la vieille chiracienne toute raide. Aidez-moi, Pascal, je vois. Michel Alliot-Marie.
Oui, c'est ça.
Michel Alliot-Marie, qui avait justement proposé de vendre des systèmes de défense, de filer des systèmes de défense d'urgence à la dictature tunisienne parce qu'elle allait perdre quand même pas mal d'intérêt dans la région. Voilà. On a eu des précédents. Et c'est pas parce que, regardez, je pense qu'il y a, voilà.
Un délice, c'est parti. Oh, une vieillerie, si c'est ma, un peu détendu, parce que je cache.
Voilà, après ce morceau de la programmation à Jean-Louis.
Oui.
Vous aimez bien, vous, hein, le rock latin.
C'est pas du rock latin, c'est du garage avec un peu moins rude que qu'aurait les chanteurs.
Non, mais
un peu.
J'ai pas dit du mal, j'ai dit vous aimez bien.
Oh, j'aime bien, c'est vrai.
Je vous sens sur la défensive. Tiens, un qui a quand même, par contre, qui aurait pu être sur la défensive et qui échappe un petit peu, qui glisse comme une anguille, c'est François Hollande. François Hollande, il a été élu il y a combien de temps?
Ben, 5 ans.
6 mois.
Moi, j'ai l'impression pas eu qui s'est voyagé dans l'espace-temps. Il s'est rien passé.
À la limite, le quinquennat Sarkozy a été tellement riche en péripéties. Son fils à la tête, vous savez, de ce grand machin. Il voulait supprimer les juges d'instruction. Il a fait camper Kadhafi. Merde, il se passait des trucs. Quoi. On a bien ri.
Un scandale par semaine.
Un
minimum.
Scandale par semaine, façon Trump, quoi. Et les Américains, regardez comment les Américains rigolent. Là, il est en train de donner tous les systèmes de codage aux Russes. Tout le monde est mort de rire. Et chez nous, j'ai l'impression, je racontais ça à ma chérie, j'ai dit, comme si c'est le quinquennat Hollande, je le résumerais aux manifs des cathos contre le mariage homosexuel, à, vous savez, après la dernière, la contre, la manif contre les lois El Khomri. Pouf, entre les deux, il s'est pas passé grand chose.
Bah, en politique extérieure, quand même, le Niger,
l'invasion du Mali.
Alors, du Mali, pardon.
Je rappelle quand même qu'il faudrait que les auditeurs se rendent bien compte.
L'invasion, attendez.
Attendez, mais il y a un truc. Non, mais justement, c'est à dessein que j'utilise ce terme-là parce que la zone qu'on est censé surveiller, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le sud de l'Algérie.
Ok, c'est ça. Quand cette fois la France.
Mais quand même. C'est pratiquement la taille de l'Europe.
Oui. Et on a un hélicoptère,
et on a une poignée de soldats. Et les pauvres malheureux, il va bien falloir se rendre compte un jour que, un, ça coûte très cher, que deux, c'est sans issue, quoi. Et sans solution politique, notamment avec les, vous savez, ceux qui font les berbères, etc., qui historiquement sont les,
Si on leur coupait l'eau.
Ils s'en foutent.
Là, ils s'en fichent.
Mais les millénaires qui vivent sans eau, ils s'en portent que mieux. Et, quelque part, si on essayait aussi peut-être davantage de revenir aux sources du problème, plutôt que de laisser notre infanterie de marine se dessécher au soleil du Mali, parce que les pauvres malheureux, par sauter sur une mine imprévue, je vois pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Bref, le bilan de François Hollande se résume à pas grand chose. Si, il a quand même flingué le PS. Parce qu'il faudrait quand même rappeler que quand il est arrivé.
Il l'a sauvé dans un premier temps, et puis il a flingué dans un deuxième.
Il l'a sauvé.
Après Jospin, le PS était mort.
Il l'a sauvé. C'est vrai que Sarko faisait tellement de conneries que pendant toutes les élections intermédiaires, Hollande a gagné toutes les élections. Ce qui fait que les socialistes, quand il a pris le pouvoir, avaient l'Assemblée nationale, avaient le Sénat, avaient la plupart des régions, avaient toutes les régions sauf une, Alsace, je crois, qui résistait encore et toujours à l'invasion rose ou la Lorraine, je ne sais plus laquelle province boche, et la plupart des départements, la plupart des grandes villes, bref, ils avaient tout. Et en 5 ans, il a consciencieusement pété son jouet. Et il y a un dessin que j'ai vu dans la presse d'aujourd'hui qui résume bien, on voit Hollande tout seul qui sonne à la rue de Solferino, qui fait « Bonjour, c'est François le plus président », et pouf, il a absolument tout pété. Et maintenant, je crois que c'est combien? Ils ont à combien d'intentions de vote pour les législatives, le PS?
6-7%,
c'est pas... Ils risquent de tomber encore plus mal qu'en 93.
Là, dans les projections, grosso modo, République en marche et les Républicains côte à côte. Après, on trouve le Front National assez loin derrière. Après, votre pote, là, comment il s'appelle?
La Mélenche.
La Mélenche. Il m'énerve.
Vous en avez déjà parlé.
Je peux y aller?
Non.
Je peux le dire?
Oui, il a été parachuté à Marseille.
Il s'est parachuté dans un arrondissement de Marseille où il était sûr d'être élu dans un fauteuil. Qu'il a à Aimon
Il a été?
Ah ouais, il s'est pris une raclée.
Ouais, mais elle a pas gagné non plus, mais ils avaient mis un socialiste face à lui aussi.
Il y a eu une triangulaire,
et il y a eu un socialiste face à lui, ça n'a pas été très fair play de la part au capitaine de pédalo, c'est pour ça aussi que la Mélenche était un peu mauvais avec Hollande.
On l'entend plus, là, je sais pas où il...
Hollande ou la
Mélenche?
Alors c'est vrai que je pense que
il est colère. Hein.
Alors il n'y a pas que la Mélenche, parce que la République en marche a failli nous payer Ganzer, là, vous savez, le communicant à écharpe. C'était le communicant à Hollande
qui
est parti chez Macron et il était parachuté un petit jeune dans un arrondissement de Rennes, puis ça a huché chaud et du coup Macron a retiré Ganzer parce que c'était quand même un peu une figure médiatique, il avait peut-être des chances d'être élu et du coup parachutage, vous avez raison de le souligner, on perd un petit peu de vue, c'est vrai qu'un député du coup n'est plus un élu local, c'est un représentant.
Député, c'est ça en fait. Oui, voilà, je vous rejoins. Pour moi, dans ma naïveté, un député, c'est celui qui va défendre sa circonscription, etc., etc. Et en fait, non, vous l'avez précisé, c'est un représentant de parti, quoi. C'est un peu gênant quelque part. C'est comme si moi j'étais maire de Trévoux-Trignac et j'habitais à Rennes. Voilà, mais je suis maire.
Pour les municipales, là, par contre, c'est vous devez absolument avoir un logement et justifier d'une habitation.
Et pas pour les législatives. C'est pas normal. Je vais appeler Manu.
Oui, yes. Alors le bilan, voilà, c'est ça. Voilà, c'est fini. Vous avez vu le bilan torché en 5 minutes. Et j'ai l'impression vraiment que 2012, c'était hier.
Et le Macron, il est tellement bizarre, énigmatique. C'est vrai, j'ai beau regarder les documentaires sur lui, j'arrive pas à cerner le personnage.
Alors justement, est-ce que je peux vous en dire plus? Il y a Valls qui nous a fait rire quand il a dit « Oh, il est méchant! Hollande a été méchant !» Vous savez, il me faisait penser à, comment il s'appelait, l'espèce de petit poussin tout noir avec sa coquille
Calimero.
Sur la tête. Calimero. Ouais, Calimero. Bah oui, Valls, Manuel, toi-même, t'avais toujours une tête de faire la tronche. Je suis un peu surpris qu'avec une tête comme ça, de mauvais, comme il avait, il puisse juger que les gens soient plus méchants que lui. Bref, Macron, effectivement, est peut-être méchant. Faut quand même savoir que le mouvement, alors c'est dur à dire, c'est pas un acronyme que je lui conseille de garder, c'est le LREM, LREM, pour La République En Marche.
Ouais, c'est vrai.
C'est nul. Ouais. Vous appelez ça République En Marche, REM.
Ouais,
et ça faisait en plus un peu électro. Et
vous un peu d'électro. Ah non, attends, vous transformez ça en REM.
REM,
et vous faites une chanson du style, attendez, je sens,
faut virer
j'ai perdu
le
ma religion, un truc comme ça.
Ouais,
il fait un
voilà, REM, La République En Marche est nulle. Allez, REM en tout cas, a mis des candidats, abstenus d'émettre des candidats En Marche face aux candidats députés socialistes, macronistes, et ils sont nombreux, il y a une centaine de députés socialistes qui ont demandé, votre honneur, bon maître, on veut bien se tourner vers vous, en échange, Macron leur a pas mis des bâtons dans les roues, mais je fais attention à ce que je dis ce soir.
Oui, c'est vrai que vous lui fichez la trouille.
Des bâtons dans les roues, et c'est le cas par exemple de Najat Vallaud-Belkacem qui, elle, n'a pas renié Hamon, qui a soutenu Hamon, pouf, elle aura un député face à elle. C'est le cas de plusieurs députés, et représentants ministres de l'ancien gouvernement qui avaient appelé à voter Hamon. À l'inverse, Le Foll, Stéphane Le Foll, vous savez, le grand pourfendeur des pesticides et des porcheries qui pètent dans le Jody, ça pète à côté de chez vous, rappelez?
Là où je suis maire, alors que j'habite ici.
Non, là vous êtes député.
Je suis député. Ouais,
vous êtes député, ne confondez
pas. C'est où ça? Où c'est que je suis député?
C'est le Jody.
Ah et ouais, ben, voilà. Merci.
Et ben du coup, à chaque fois qu'un officiel socialiste se sera déclaré fidèle à Hamon, pouf, il aura un candidat REM sur sa route. Peut-être bien que c'est vrai qu'il est méchant.
Je sais pas. Une bonne Marine Le Pen, en fait, ça aurait été simple. Toutes les semaines, on avait... c'est Macron. un Fillon, ça aurait été simple. C'est vrai, Macron, il est bizarre.
Alors, j'ai un morceau qui dure pas très longtemps. Bah, toujours sur cette même... C'est à moi de jouer, maintenant, je crois.
C'est à vous de jouer, mais il fallait me le dire
avant. Je vous le dis maintenant. Vous allez sur R1, volume 4.
D'accord. Vous allez me
trouver un morceau aux alentours de 3 minutes, qui s'appelle ?
Le Colophon Again. Non.
Oh là là, 3 minutes, The Smith Street Band sur Under.
Non plus.
Ça, c'est une programmation travaillée.
Essayez celui-là.
Allez, pile ou face. Thanks.
en a marre. Ça ne peut plus durer. À force de dépasser les limites, je vais sortir de mes gonds. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Moi, je dis mes couilles, merde, saloperie de nom de Dieu, de bordel à cul, chérie de putain d'enculé de mes deux. Chronique coup de gueule.
Voilà, voilà un générique, je dirais, à point nommé. On hésitait ça entre ça et sexe, mais bon,
ah non,
on
pas y reviendra sexe, tout à l'heure. Non, ça c'est...
Et donc, du coup, ça pour présenter Pascal, alors Pascal, je tiens tout d'abord, en tant que félon que je suis, à vous souhaiter une bonne fête, parce que c'est la Saint-Pascal aujourd'hui, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est vrai. Ça.
Bonne fête, Pascal.
Eh, merci. Vous voilà. Lui fichez la trouille. C'est la première fois que je veux souhaiter la fête à quelqu'un.
Mais c'est surtout la fête de ma chérie qui s'appelle Pascal.
C'est vrai.
Ah. Et c'est pour ça que je le sais. Et donc, du coup, si on vous reçoit aujourd'hui, alors je vais le rappeler hein, parce qu'il y a des auditeurs qui prennent en marche, ça avait commencé, ils s'essuient même pas les pieds sur le passage.
Regarde TF1, va nous écouter.
Voilà,
là.
Puis après quand ils se font chier sur TF1, ils viennent chez nous. Bref, Pascal Sacleux, vous êtes donc à l'origine d'une exposition qui se tient en ce moment à l'aéroport de Rennes, et c'est assez superbe parce que derrière les bureaux d'enregistrement, pouf, on voit une tripotée de visages hilars. D'ailleurs, il y a un point commun, je dirais, ils se fendent un peu tous la gueule, j'ai l'impression.
Quand ils sont entre eux, ils rigolent, oui.
Ouais, énormément. Que des roues.
Entre eux.
Que des roues sur grand format. Pich, pich, pich. Et à tel point, d'ailleurs, qu'on se croirait, à Dublin. Et, ou dans un aéroport irlandais, on se croirait, excusez-moi, mais de toute façon, on va être amené à en parler, à une publicité, par exemple, pour Air Irlande, parce qu'ils l'ont utilisé, j'ai vérifié. Et, du coup, justement, si vous avez fait, cette expo, c'est parce que vous êtes photographe, et aussi, vous aviez envie aussi de parler de quelque chose.
Et parce que je suis roux.
Voilà, alors ça, je voulais pas le dire tout de suite.
Désolé. Voilà, c'est non, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, voilà.
Et vous êtes roux, et du coup, bah, pouf, vous avez eu envie, justement, de parler de ça à travers cette exposition photo, mais naturellement, avant de parler d'exposition photo, on va peut-être revenir avant toute chose sur un peu votre parcours, du coup. Et, bah, Pascal, qu'est-ce qui vous a amené, justement, à la photo? Comment vous êtes tombé sur le mode de la photo? Nous, on vous a trouvé à l'aéroport. C'est votre boulot. Vous travaillez pour l'aéroport de Rennes en ce moment?
C'est à nouveau mon boulot, ouais.
Voilà.
Oui, je faisais ça déjà il y a 25 ans à Roissy. Je suis parisien en fait.
Désolé.
Bon, non, ça c'est pas grave. C'est plutôt la. Enfin bref. Alors.
Alors moi je trouve qu'il y a quand même un truc, c'est que ça pose bien quand même l'agent d'enregistrement, vous savez, costard et tout. Et... C'est eux qui le payent ou c'est à vos frais?
Jusque là c'est encore à mes frais.
Ah ouais.
Ouais.
Ils le payent même pas.
Ça va arriver. Ouais. Ouais. Ça fait pas longtemps que je suis confirmé.
Et c'est vrai, il y a à côté, il manque plus que la casquette et ça ferait quasiment commandant de bord. Là.
Ah, c'est vrai qu'on est presque en avion déjà quand on a fait.
Steward.
Non, mais j'ai les pieds sur terre.
Vous avez les pieds sur
terre.
Ouais.
Mais on en parlera tout à l'heure justement. Alors, si avec les gonzesses ça marche bien. Bref.
Jean-Louis.
Donc 25 ans entre à l'origine, vous avez fait une formation, etc. Vous avez commencé à travailler. C'était à l'aéroport de Rennes ou à Paris ou ailleurs?
D'abord à Roissy.
Roissy, ouais.
Et après j'ai fait l'école Louis Lumière, l'école de photo à Paris. Et puis en parallèle j'ai bossé pour des compagnies aériennes, etc. Et puis j'ai commencé à beaucoup voyager et beaucoup de photos, beaucoup de pochettes de disques, énormément. Je bossais pour un magazine de rap et de reggae pendant 6 ans. Et puis le numérique est arrivé, tout s'est effondré.
Il servait à la mode, enfin plus le.
Et donc il a fallu rebondir. Donc de la formation photo et puis voilà. Maintenant j'ai arrêté la formation et je fais uniquement ce qui me plaît. Et en ce moment ce qui me plaît c'est de photographier des roues.
Bah, moi je dirais j'ai un ami qui on a déjà interviewé d'ailleurs qui est spécialiste dans les renards, il y a un petit point commun entre
ouais les renards entre, les écureuils ouais on est
entre
on
les
est
renards lui frères, c'était ouais. Les renards à Londres en fait, il avait découvert, il était comment il bossait dans une boîte
Laurent Gélin.
Ouais Laurent Gélin, il bossait dans un bistrot à Londres, il finissait tard, il était déjà photographe et il avait repéré des renards qui passaient. Or à Londres personne ne s'était jamais intéressé des renards et des bestioles sauvages qu'il y avait dans leur ville et il les a photographiés, il a réussi à vendre de ses reportages et pouf maintenant bah,
ouais,
il est
du jour au lendemain photographe animalier là.
Ouais.
Ah, il suffit de enfin, on verra peut-être que vous allez tomber sur un mécène.
Mais je vous donnerai comment les liens pour aller sur ces maintenant en ce moment il fait plutôt dans le lynx. Ah, il est plutôt dans le lynx.
Ouais, vous avez parlé d'une école, c'est quoi cette école?
L'école Louis Lumière, ouais. C'est une grosse école de photo. Ouais.
Ah donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous travaillez, bon bah ça va, un salaire qui tombe tous les mois. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui vous décide? Alors vous avez fait ça en parallèle de votre travail, c'est-à-dire hop la journée pour résumer votre boulot à l'aéroport et en soirée les cours, vous avez tout laissé tomber pour
J'ai tout laissé tomber pour être photographe. Ouais et pendant 20 ans, j'ai fait que ça.
Et alors, c'est quoi cette école de lumière, cette spécialisée? Alors,
oui, c'est vrai, l'école vous dites, de cinéma
c'est, et de photographie. Je suppose que c'est, oui, mais précisément, il y a une sélection, comment, c'est une école reconnue par l'État, il y a une qualification.
Oui,
oui,
on passe un BTS, donc en deux ans, ou en cours accéléré le soir, et puis on arrive directement sur le marché, on est super, super outillé.
Vous étiez déjà photographe avant, je suppose que vous aimiez bien photographier avant.
Non, j'avais l'œil, mais j'étais pas encore photographe.
C'est vrai?
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez?
Oui, qu'on appelle l'œil, avoir c'est l'œil. Quoi, l'œil?
Avoir l'œil, c'est le sens de la mise en scène. Savoir cadrer, regarder une scène et se dire, si je la livre en produit fini, format rectangulaire, elle est lisible, elle est compréhensible. Ou en tout cas, on lui donne un sens.
Mmh. Et vous avez promis, c'est pour ça que vous avez amené beaucoup de matériel, une belle photo de nous, parce qu'il a l'œil qu'on retrouvera.
Avec moi, ça va être difficile, comment Pascal.
Et donc, alors
ouais, vous parlez après, donc des photos, vous parlez des voyages, comment, vous avez, c'était quoi, les bestioles, les gens?
Les gens.
Les gens.
Ouais, ouais, toujours les gens. Moi, j'ai toujours été attiré par les minorités visibles, beaucoup attiré par les cultures noires, donc afro-américaines, caribéennes et puis africaines. Et donc, j'ai beaucoup voyagé dans ce sens-là. Mes voyages avaient toujours une petite dimension sociale, en fait.
Vous aviez des influences, comment dirais-je, au niveau de ce qu'on appelle, enfin, minorité visible, quand on va en Afrique, ça me fait penser à des trucs, Jean Rouge, par exemple, des vieux documentaires, où est-ce que vous étiez dans l'ethnographie ou?
Moi, j'ai voulu photographier des rois. La première fois où je suis allé en Afrique, c'était au Bénin, et j'ai voulu photographier des rois. Je suis rentré en contact avec l'ambassadeur du Bénin à l'UNESCO, et en échange de bonnes connexions pour photographier la royauté au Bénin qui est très active. J'ai dû photographier aussi des artistes plasticiens béninois, c'était l'année de la francophonie, ça remonte à 95 au siècle dernier, et donc j'ai photographié tous ces sujets-là en fait, et des rois et des artistes plasticiens béninois.
Donc vous n'étiez pas dans le parce que là vous voyagez beaucoup et je vois de temps en temps sans doute vous aussi Jean-Loup mais des reportages où on parle de il y a des gens vous savez qui ont des photographes des collègues à vous qui vont paf s'orienter sur la guerre les événements chauds etc c'est pas vraiment vous c'est plus le comment je dirais le côté culturel social
alors en fait quand j'étais à l'école Louis Lumière à un moment donné au 1er mai on m'a envoyé en reportage couvrir le Front National et la fête de Jeanne d'Arc.
Ah bah déjà c'est un petit côté baroudier.
Ouais, ouais.
Et en fait, en plus.
Le reportage a duré 4 heures. Pendant 4 heures, j'ai failli vomir. Et quand j'ai ramené mes photos à l'école, on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'émotions, mais pas assez d'informations. Donc j'ai arrêté la photo d'information.
Ah, ah.
Et vous arriviez à vivre justement de votre art parce que c'est un art.
À l'époque de l'argentique, oui.
Quand vous étiez en Afrique, etc., vous vendiez éventuellement vos photos.
Oui, après j'ai revendu mes photos soit à des banques d'images à l'époque qui n'étaient pas libres de droit, ou alors à des ouvrages qui compilaient les artistes béninois, à des banques d'images qui étaient spécialisées dans le voyage, etc. Mmh. Oui, j'arrivais à faire ça. Plus les pochettes de disques aussi.
En quoi l'arrivée du numérique a flingué ça?
Ou pas le numérique, vous parliez de banques d'images qui étaient...
Qui étaient de droits négociés. C'est-à-dire que maintenant, vous allez sur des sites et vous payez 30 euros et vous avez 5 photos qui sont à vous. Vous pouvez en faire ce que vous voulez.
Et aujourd'hui, ça marche.
À l'époque, c'était selon la taille de la photo que vous publiez, un quart de page, une demi-page, une couverture, etc. La couverture géographique, la durée dans le temps, etc. Bref, si vous faisiez un 4x3 dans la rue, partout en Europe, pendant 6 mois, vous gagnez au loto.
Ah ouais.
C'était ça un petit peu le truc.
Ouais, parce que je comprenais pas bien le lien comment parce que justement pour revenir à Laurent Gélin, lui le comment
il a gagné au loto quelque part.
Non, le problème du numérique c'est que ça aussi c'est une plus grande facilité. C'est-à-dire que quand vous photographiez des bestioles,
tac tac tac, vision tout de suite.
Ouais, ça coûte super chaud, quoi. Quand on était à l'argentique, la bestiole, vous aviez intérêt à bien assurer l'affaire. Maintenant,
c'est un bon entraînement.
Bah, ouais.
Mais on s'applique moins maintenant. Hein.
Ah bah ouais, c'est clair. Et Laurent me disait que des amateurs peuvent avoir la chance inouïe. Plau, des amateurs, enfin bien qui vont
éclairer quand même,
éclairer,
pas moi, pas vous,
mais pas des professionnels pourraient effectivement sortir du cliché qu'il pourrait vendre et avec en plus l'arrivée sur le marché d'une baisse des prix aussi. C'est-à-dire que Laurent me disait que les gens, il y a certains amateurs éclairés, on va
qui
dire,
qui produisent tellement,
non, non, c'est pas ça, mais ils sont tellement contents d'être publiés qu'ils vont accepter n'importe quel contrat.
C'est ça.
Ça amène les prix à la baisse. Est-ce que c'est dans le même, même
c'est,
problème?
C'est
pour
le,
vous
le même registre. En fait, les banques d'images libres de droit, vous avez un type qui va photographier des bouteilles pendant une heure, il va produire 100 images et il va vendre ça à la banque d'images libres de droit et il va en vendre 10 000 à 30 centimes la photo. Ça marche comme ça. Produire des images maintenant, ça coûte pas cher, c'est pratique, et donc tout le monde peut facilement produire des images, et donc le côté budget image, etc., il a fortement baissé, puisque dans les agences de com, par exemple, maintenant pour 500 €, vous avez un appareil décent, les gens font les photos eux-mêmes et ils font retoucher ça par des armées de graphistes. Alors qu'à l'époque, il fallait savoir quelle pellicule, pour quel rendu, etc. Et on était les maîtres du monde. Maintenant, on n'est plus rien.
On va écouter un petit disque, bah justement, de votre programmation. Et ça fera le lien, peut-être, comment vous êtes arrivé dans ce milieu à faire des pochettes de disques, etc. Alors, ouais. Qu'est-ce que vous nous proposez?
Moi qui vais proposer, parce que je n'ai pas demandé.
J'ai donné un gros paquet, et puis vous pouvez piocher au hasard.
J'ai mis Elky Brooks, Mojo Anna.
Ouais, super.
Eh ben, on en parlera tout de suite après.
Il est gentil.
I'm taking 4 strands of your hair in a $5 bill. I'm gonna put it in a letter. I'm gonna drop it in the mail. I'm gonna send it to a woman that a friend of mine told me about. She's a gumbo cooker and an alligator whipper, make a day man jump and shout. Talking about a woman named Hannah. Mojo worker, she gonna work that thing for me. She gonna hear my misery. Ah, I know he'll be coming out home soon.
She gonna work it out. She gonna work it out.
She don't wear fancy stitches. All she wears is a man's breeches. I never made it. She takes a little sip. She got a 45 on my hip. She's built up a reputation in a southern land.
Saturday night about 12 o'clock, you know she hoodoo the voodoo man.
Talking about a woman named Hannah down in Louisiana. Oh, she's the mojo worker. She gonna put that thing
she
on me. She gonna hear my misery. And in a letter, I'm gonna drop it in a mail. Gonna send it to a woman that a friend of mine told me about.
She's a gumbo cooker and an alligator whipper, make a damn man jump and shout.
Talking about a woman named Hannah down in Louisiana. Oh, she's a mojo worker. She's gonna work that thing for me. She's gonna hear my misery.
Voilà, toujours en compagnie de Pascal Sacleux, bah, qui nous parle un petit peu de son parcours avant qu'on aborde l'exposition qu'on peut voir actuellement à l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques en elle-même. Donc, alors, vous avez parlé un petit peu de voyages beaucoup en Afrique, au Bénin.
Aux États-Unis aussi.
Aux États-Unis,
ouais, ouais. Ouais.
Et après, vous... Ah, justement, qu'est-ce qu'on vient de s'écouter? C'est de votre programmation un peu rhythm and blues.
Mojo Anna, ben, moi, je suis fasciné par les années 70. Donc, voilà, c'est un morceau de 75. ça groove bien, ça parle de magie.
Ouais, et bien. Les années de 70, c'est votre adolescence, en fait.
Oui, c'est ça, ouais. chers auditeurs, il va falloir qu'on vous dise un truc. Hors antenne, Pascal nous a donné son âge, sa fille d'atomiser Jean-Loup, puisqu'effectivement, il est plus vieux que Jean-Loup et la
différence. On a 2 ans de décalage.
Et la différence. Non, vous avez déjà plus que lui. Bref, comment, ça, c'est là, vous parliez de l'Amérique, de la Soul. Comment dirais-je, c'était quoi les magazines dans lesquels vous diffusiez vos photos?
Alors, j'ai commencé par un magazine qui s'appelait Black News. Ça faisait beaucoup rire les artistes quand je venais les photographier, parce que j'étais plutôt blanc et roux. Et puis après, j'ai travaillé pour un magazine qui s'appelle RER, Rap et Raga, qui a disparu depuis. Et donc, c'était une super vitrine pour faire des pochettes de disques auprès des maisons de disques. Et c'était une bonne expérience. J'ai photographié plein de gens très très connus. Et c'était drôle, quoi.
Et vous tombez dans le milieu musical par hasard, par des contacts, ou vous aviez une certaine attirance vers ce milieu-là?
Le magazine Black News, ça a commencé comme ça. C'était un magazine qui reproduisait tout ce qu'on peut voir dans les autres magazines, mais pour les sociétés noires. Donc il y avait de la mode, il y avait du cinéma, il y avait de la littérature, il y avait de la musique, il y avait de la peinture, il y avait plein de choses comme ça. Et puis quand le magazine a périclité, le spécialiste hip-hop, qui était mon colocataire, a été embauché comme rédacteur en chef de RER et il m'a demandé de venir avec lui. Ouais, on a bossé en équipe pendant 5 ans.
Alors après, vous nous disiez, vous parliez d'artistes, alors je sais pas si ça va nous parler, peut-être plus Jean-Loup, comment vous avez travaillé pour qui, par exemple?
Comme artiste?
Ouais. Pour les pochettes de disques?
Stomy, beaucoup de compilations de hip-hop, R&B, des trucs de reggae, mais surtout j'ai photographié pour la presse des gens comme Al Jarreau, comme Nina Simone, Jimmy Cliff, Jay-Z. Des gens comme ça, quoi.
Des gens comme ça, là.
Alors, oui, c'était des photos prises sur scène, ou vous aviez le droit à des séances de photos, ou pouviez leur demander de poser?
Alors, quand ils étaient en promo, j'avais droit à des séances privées, quoi. J'étais tranquille avec eux.
Et les gens, comment on fait pour faire poser une star de c'est quoi?
Al Jarreau, par exemple, on est dans sa chambre d'hôtel, il est en train de répondre aux questions du journaliste, et puis moi, je me sers. Il est là, en train de fumer ses petites clopes, tranquillou, et de temps en temps, il me regarde, il me fait un sourire, je le shoot, voilà. Ouais. Jimmy Cliff, je lui ai fait prendre une douche de lumière dans le couloir de l'hôtel, il y avait des petits halogènes au plafond, et je lui dis, faites comme si vous preniez une douche. Alors, il se frottait comme ça, sous la lumière, c'est cool.
Ah ouais, et les gens se prêtent au jeu, les artistes se prêtent au jeu assez facilement.
Ils devaient avoir une tête de con, quand même.
En fait, les Américains, ils sont super pros. Donc, quand ils viennent en promo, ils se plient à toutes les exigences. D'accord. Et quand vous leur proposez des choses un petit peu originales, ils vous suivent. La photo devant les fleurs avec un sourire de niais. Donc, on faisait autre chose. On faisait des trucs qui bougent un peu.
Vous êtes tombé sur une tête de con?
Plein.
C'est vrai? Alors, c'est quoi le prototype de con, sans dire avant les noms, peut-être qu'on dit.
Non, je veux pas dire les noms.
Prototype de tête de con? C'est quoi une tête de con?
Une tête de con, c'est le gars qui dit qu'il a pas le temps, qui répond pas aux questions, qui veut s'en aller avant même d'avoir commencé à faire les photos, qui vous calcule pas du tout, bref, il joue pas le jeu, quoi.
Ah, vache. Ah, du coup, il y a toujours un petit pincement au cœur. Est-ce que ça est arrivé, sans qu'on dise de nom encore une fois, que vous tombiez sur un artiste dont vous aimiez le travail et c'est une tête de con?
Oui.
Ah, c'est dur, là.
Il n'y a rien de plus décevant quand on aime bien quelqu'un de s'apercevoir que c'est une tête de con. Voilà.
Ah ouais, ça doit faire mal, ça.
Ouais, ça fait mal, ouais.
Et du coup, on fait quoi? On pète ses disques?
Quoi?
On pète ses disques?
Ouais, on pète ses disques.
Vous avez bien raison.
On les écoute plus pareil.
Ouais, c'est clair.
Ou on publie une photo, il est pas à son avantage.
On le floute.
Le mauvais.
Tiens, c'est une bonne question. Est-ce que vous avez le droit de vous venger? Par exemple, Jean-Loup, c'est un peu la star. On peut jamais prendre de photos, etc., etc. Il veut jamais. Est-ce que vous pouvez vous venger de Jean-Loup en disant, tiens, tu vas voir ta gueule, je vais te mettre en mi-flou?
Oui, je peux faire ça, ouais.
Il va le faire.
Je peux le photoshopper, ouais.
Et vous l'avez fait? Pour des artistes qui vous ont fait chier?
Non, j'en parle mal, mais les photos, je les laisse clean parce que c'est quand même moi. Quoi.
Et ça, est-ce qu'on en vit mieux que de faire du reportage ou ramener des photos d'Afrique, etc.?
C'était une étape
supérieure.
À l'époque, les pochettes de disques et les publicités, c'était presque indécent tellement c'était bien payé. Et puis rapidement, les publicités ont été tournées. En Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Europe de l'Est, c'était plus les mêmes budgets et paf, on est passé à la trappe.
Et pareil pour la au niveau des artistes, on rencontre les artistes et parfois est-ce qu'il y a une continuité après l'interview, est-ce que vous êtes arrivé de continuer à discuter en antenne en tout cas
tout le temps
la soirée, je sais pas.
Oui, c'est arrivé plein de fois, ouais. Des gens comme Yusundur par exemple, on a super bien rigolé quoi, c'était vraiment super agréable. Alors quand il y a des grands artistes comme ça et qui sont en plus super sympas, vous avez pas envie de partir, vous avez envie qu'ils soient votre pote quoi.
L'Africain, c'est un peu comme le rouquin, il est convivial. Ils sont comme ça,
c'est ça, gêne. Discriminé et convivial.
Ouais. On se rapproche petit à petit, je sais pas, on se met un petit disque.
Ouais, un petit disque.
Qu'est-ce
si
que vous nous proposez cette fois-ci?
Le Jill Scott, là.
Jill Scott Heron, mon héros. Je l'ai photographié plusieurs fois, ouais.
Eh ben, écoutez, on va s'écouter ça tout de suite.
I'm gonna take myself a piece of sunshine and paint it all over my sky, yeah. Be no rain. Be no rain. I'm gonna take the song from every bird and make them sing it just for me. Birds got something to teach us all about being free, yeah. Be no rain. Be no rain. And I think I'll call it morning from now on. Why should I survive on sadness and tell myself I've got to be alone? Why should I subscribe to this world's madness, knowing that I've got to live on? Take myself a piece of sunshine and paint it all over my sky, yeah. Be no rain. Be no rain. I'm gonna take the song from every bird and make them sing it just for me. Why should I hang my head? Why should I let tears fall from my eyes when I've seen everything there is to see? And I know that there ain't no sense in crying. I know there ain't no sense in crying. Yeah, I think I'll call it morning. Morning from now on, yeah. Cause there ain't gonna be no rain, be no rain, be no rain, be no rain from now on, yeah.
Yep. Miel et l'or, on met du sirop de glucose. Donc voilà, bah après ce morceau,
nous parlions des minorités visibles.
Rimbouze un peu sweet, ça me rappelle plus les années, je dirais 50-60.
70.
Ouais. Oh, ok, d'accord. 70. Vous êtes resté bloqué les années 70.
Il a votre âge, Jean-Louis.
Oui, bon, ça va, c'est pas la peine de vous le rappeler régulièrement là. Et donc Pascal, alors on continue sur le thème de la photographie. Alors c'est pourquoi cette idée d'exposition sur les roues? Ça c'est une question qui est
la grosse question. Ça a commencé il y a un peu plus d'un an. lorsque sur une autre radio, une radio nationale d'information, j'ai entendu une journaliste que j'aimais bien jusque-là. Je parle au passé, donc.
On peut dire son nom, peut-être, quand même.
Non, ça, oh, si.
Il est gentil, hein, Pascal. Il jamais de mal.
Il veut pas d'ennui.
Hein, il dit pas de mal.
Alors que vous pourriez, justement, chercher des
ennuis. Non, mais j'attends qu'elle m'appelle pour s'excuser.
Pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait, en fait? Et vous a présenté sous un...
Bah, à moi et aux autres, en fait. Elle a fait une rubrique nécrologique d'un comédien américain des années 50 qui s'appelle Mickey Rooney, un comédien...
Oui.
Espèce de petit bonhomme.
Un petit bonhomme plein de taches de rousseur et donc roux. Et donc, la rubrique commence par petit, rondouillard, rouquin, et pourtant, il aura connu 8 mariages et non des moindres. Et là, tout
et
s'effondre.
Pourtant. Et pourtant.
Et pourtant. Alors, on se dit, tiens, une journaliste sur une radio nationale d'information se permet, pour faire un trait d'humour pour le chapeau de sa rubrique, d'utiliser un terme malgré tout assez galvaudé
et qui renvoie
au fait que bah c'est normal quand on est petit, quand on est gros et quand on est roux, ça, bah ouais, on est moche et on doit pas se marier, quoi. Et moi ça m'a enflammé, quoi. J'ai trouvé ça un petit peu du rail, et à partir de là, j'ai voulu commencer à photographier mes semblables, les roux, une autre minorité visible, presque invisible. Et puis donc j'ai rencontré des gens, le bouche à oreille, etc. Et voilà où on en est.
Et vous, vous avez subi un genre de harcèlement quand vous étiez gamin?
Non, harcèlement, non. Moi, j'ai grandi à Paris, donc à Paris, on s'en fout un peu de qui
c'est
vous
la
êtes.
Ville,
c'est la ville, c'est un tourbillon de minorités visibles et invisibles. Et donc, tout le monde s'en fout un peu. Bien sûr, quand vous avez 17 ans et que vous êtes un peu vulnérable, et que vous voulez commencer à plaire aux filles, etc., et qu'on vous balance des conneries du style « les roux, c'est comme les noirs, quand il pleut, ça sent le chien mouillé », là, vous êtes mal. Mais bon, ça va. Je suis un grand garçon, je m'en suis remis. Ouais.
Vous avez
je crois que et l'autre, il s'en est remis.
Moins.
C'est bien ce
non,
que
mais
je
vous
disais.
Vous en sortez bien.
Vous
auriez pu être noir et roux.
Mais il y a des noirs
y a,
et roux.
Voilà.
Ouais.
Ah, justement, alors, petit, parce qu'on s'est renseigné, Roger et moi. Moi, j'ai un truc un peu plus synthétique. Roger confirmera. Est-ce que vous savez pourquoi vous n'êtes pas comme nous? Qu'est-ce qui cloche, en fait?
Je suis comme vous, qu'est-ce qui cloche?
Ah bah attendez, moi je vois des trucs, on n'a pas la même génétique.
On a la même génétique.
Désolé.
Bon, on a un gène qui s'appelle MC1R, le gène commun à tous les roux de la Terre. Mais mis à part ça, on va aux toilettes comme vous venez de le faire.
J'étais pas absolument pas aux toilettes.
Pour faire caca, c'est bien ça que vous étiez en train de dire.
On sent que il a l'habitude de se défendre. Et en fait, c'est vrai que vous êtes une minorité. Vous représentez à peu près 1 ou 2% de la population mondiale.
Oui, c'est ça, ouais.
Et vous devez savoir le pays où il y a le plus de roux.
Je pense que c'est l'Écosse avec 13%.
Bien. Oh bien, on a les mêmes. Et le deuxième, qui vient souvent à l'esprit des gens.
Bah, l'Irlande, le cliché, ouais.
Voilà.
Ouais.
Il y a eu des roux célèbres. Vous savez que Ramsès II était surnommé le pharaon roux.
Ouais.
Ouais, alors là, je m'insurge.
Ça nous a pas réussi.
Je vous avais dit que je m'insurge. Parce que moi, si vous attaquez dans le roux égyptien, est-ce que vous saviez, mon bon Jean-Loup, que Seth, le dieu de la mort, vous attendait du haut, comment, avec son espèce de museau de chien ou de chèvre, je sais pas trop à quoi, c'est peut-être une chèvre.
Un chacal,
vous avez raison. Et ce chacal-là, il est roux, mon bon Jean-Loup. Et du coup, déjà, en Égypte, déjà, les roux étaient mal vu du fait que Seth, le chacal, et pourquoi un chacal? Parce qu'effectivement, quand on meurt dans le désert, c'est souvent les chacals qui bouffent les charognes.
Bref, qui nettoient.
Voilà, qui les nettoient. Et ils sont un peu, ils tirent sur roux, un peu comme les renards. Et donc, du coup, bah voilà.
Et donc, justement, pour être roux, vous êtes rarissime quand même, il faut avoir un gène récessif.
Oui.
Vous savez ce que c'est, bien sûr.
Oui, c'est un gène qui va faire un petit peu comme le bambou. J'aime bien utiliser cette image. On ne sait pas quand il va sortir, mais il va sortir.
Et on n'est pas d'accord avec Roger. Il paraît que justement, pour être roux, il faut que les deux parents possèdent, ne sont pas forcément roux, mais possèdent ce fameux gène récessif. Et encore, il y a 25% des deux parents qui donnent naissance à des gamins. Bref, 25% de ceux-là vont être roux.
J'ai pas entendu dire qu'il fallait que les deux parents aient des gènes roux.
Alors justement, voilà. C'est là un point de désaccord avec Roger.
Roger, puisque Roger, qui a un peu plus bossé le dossier, mais qui n'était pas absolument doué en termes de, comment dirais-je, de copier-coller. J'ai pas réussi à copier-coller les 4 tests, mais en fait, il existe 4 cas possibles pour avoir un enfant roux. En fait, on précise que c'est un allèle, hein, ce dont vous parlez, Jean-Loup. C'est un allèle, certes récessif, qui signifie que pour être rousse, une personne doit posséder deux copies copie de l'allèle qui exprime la rousseur. Ouais. Le fait que cet allèle soit récessif nous explique pourquoi cette couleur de cheveux est si rare dans la population. Cependant, il a été déterminé que ce gène, donc le MC1R, en fait, il y a 4 cas. Il y a 4 cas possibles pour expliquer le fait de la naissance d'un gamin roux. Et on peut avoir, il y a un cas possible où il n'y a qu'une seule personne qui l'a, un cas possible où il y a le père et la mère, un autre cas où il y a que le père, un autre cas où il y a que... Enfin bref, il y a 4 cas possibles.
C'est, et ça, du coup, c'est vraiment pas de chance. Hein, là.
Et loin d'être récessif, on aurait pu penser, parce que moi dans le terme récessif, j'imaginais, je sais pas, des disparitions, genre que tous les humains finiraient genre café au lait intégral, etc. Pourquoi pas, il y aura plus de racisme si tout le monde se ressemble, je suis un peu baba cool. Mais en fait, non, parce que l'allèle en question existera toujours. Et le fait des mariages interraciaux ne limitera en rien la diminution de cette allèle, puisque comme vous faisiez le remarquer, effectivement, il y a des Noirs qui sont rouquins.
Et on existe dans toutes les sociétés. Il y a des roux partout dans le monde.
Ouais. Et c'est une espèce d'allèle qu'il y a partout.
Pareil, j'ai recherché aussi, il y a beaucoup de préjugés culturels, notamment chez les roux. Alors quand on tape préjugés culturels chez les roux, il y a négatif, il y a 3000 pages à peu près. Et quand on tape préjugés culturels chez les roux positif, il y a 3 lignes.
Ouais, c'est culturel, je pense.
Alors moi, j'ai appris des choses, par exemple, autour du Moyen-Âge, on assimilait souvent les roux à des personnes qui avaient pactisé avec le diable.
Sous l'Inquisition, ouais, c'était très pratique.
Dans le sens où, c'est vrai qu'une minorité, dire en France, c'est 2-3%, c'est une minorité quand même, et malheureusement visible. Et donc, la légende racontait que si vous aviez les cheveux roux, c'est que vous étiez en enfer pour pactiser avec le diable. Et vous avez tellement été près de l'enfer que vos cheveux ont roussi. D'où le terme roussi, part.
Ah oui, il y a des conneries.
Ah, c'est pas de genre. Est-ce que vous avez pactisé avec le diable, vous?
Depuis toujours, bien sûr. Je suis même pas baptisé.
À défaut d'avoir pactisé avec le diable, nous, avec Jean-Loup, c'est vrai qu'on a tout plein d'anecdotes plus horribles les unes que les autres autour des roues. Est-ce que, du fait d'avoir voulu travailler sur cette expo, ça vous a amené un peu à travailler sur l'histoire de tout ça un peu?
Un tout petit peu, mais je me suis surtout attaché aux témoignages des gens, donc de mon temps, du 21e siècle, et quelle que soit la génération, puisque j'ai photographié des gens de 6 mois à 70 ans. Alors 6 mois, c'est pas le bébé qui m'a répondu, c'est sa mère. Tout le monde a des anecdotes un peu tristouilles à raconter, quoi.
Ah, est-ce qu'il y avait un peu bouleversé Jean-Loup, parce que sous une écorce rude, il reste quand même un petit peu sec. C'est qu'il y a un gamin, il y a pas plus de 2 ans.
Oui, on a parlé de Mathéo.
Mathéo, oui.
Ouais. Et ça, Jean-Loup, il fait le dur comme ça. Puis Jean-Loup me disait quand on a été vous voir vendredi, il me dit où le petit Mathéo.
Et par contre, vous,
donc je finis avec le Mathéo, il avait fini par se flinguer tellement on l'avait fait chier.
Discuter, moi je me souvenais du fait divers et vous souveniez précisément de son prénom.
De son prénom,
ce qui m'a surpris d'ailleurs.
Ouais, oui.
Est-ce que ça a été ça le déclic?
Alors on peut rappeler l'anecdote, hein, un gamin persécuté les réseaux sociaux, c'est génial. Hein. Au lieu de se dire entre jeunes, on va faire l'amour, à construire le monde de demain, non, on s'insulte, regarde le connasse, regarde la petite grosse, etc. Et le gamin était harcelé via je sais plus quoi, Facebook, ce que vous voulez, quoi. Il s'est flingué à 14 balais quand même. Merde, la vie elle commence, tout ça parce qu'il était roux, point.
Ouais, j'ai reçu plein de témoignages, c'est quelqu'un qui m'a envoyé le lien vers cet article-là. Il y a aussi des trucs sur Facebook très subtilement vicieux, comme un site qui s'appelle SOS Roussisme. Alors déjà, roussisme, c'est un terme à la noix. Et en fait, c'est juste un vecteur de moquerie, en fait. C'est-à-dire que la personne qui est le modérateur de ce site n'est absolument pas pour la défense des roues ou pour la cause des roues ou pour l'ouverture des esprits envers les roues, etc., etc. Et par exemple, il a dit qu'avec l'arrivée du nouveau président, il a promis qu'il ferait quelque chose pour les handicapés et que ça allait sans doute bénéficier aux roues. Voilà. Et ça, c'est sur un truc qui s'appelle SOS Roussisme. Alors on l'a pourri, bien sûr. Et puis j'espère que bientôt cette page fermera, quoi, parce que. Et
je peux peut-être dire une connerie. Est-ce qu'il existe des associations, justement, I'm proud of, je sais pas comment on dit roux, red, c'est ça, en américain?
Ginger, ou redhead, ouais.
Est-ce qu'il y a des trucs, on est fiers des roux?
Mais il y a une journée de Ginger Day.
Voilà, ça aussi, c'est une connerie. À mon avis,
ça, c'est intéressant, parce que on en parlait un petit peu à l'aéroport quand on a été vous voir l'autre jour, vendredi avec Jean-Loup. On en reparle encore ce soir. soir, vous parlez de SOS roussisme, c'est-à-dire que vous, en tant que roux, effectivement, vous revendiquez qu'on vous fout de la paix, point barre. Mais en même temps, vous critiquez toutes ces espèces de démarches, la roue Pride, etc. Parce que il n'y a pas de raison effectivement de réserver un jour pour les roues dans la mesure où il n'y a pas de différence bras, entre les roues et les roues. Sinon, on va faire une. Bah oui, tiens, pour les chauves, j'aimerais bien moi d'ailleurs.
Non, mais après il y a des journées spéciales, la journée contre le cancer, etc. Bah c'est bien si c'est suivi de décisions gouvernementales qui vont faire qu'on va donner plus d'argent pour les hôpitaux, des trucs comme ça. Mais la journée des roues, franchement, on s'en fout. Quoi. Il faut surtout changer les mentalités. C'est vraiment ça qui est important. Les roues, c'est tous les jours. Hein, et, les roues, ils sont roues toute l'année. Hein.
Ah. Alors, comment vous avez travaillé justement autour de cette expo, du coup, pour trouver des modèles ? Alors, parce que c'est pas évident. Heureusement, vous étiez roux. Donc, du coup, vous avez pu aller voir. Mais ça va, je suis sympa.
Est-ce que ça a facilité le contact, tout
mais
simplement ?
Bien sûr.
Ça, ah bah ouais.
Ça a vraiment facilité le contact.
Vous êtes une secte.
Je pense que sinon, ça aurait fait un petit peu promenade aux eaux, quoi. C'était un petit peu ça. Mais en fait, non, les gens se confiaient à moi parce que je suis roux. Et puis de bouche à oreille, on m'a présenté d'autres personnes, et puis il y a eu les premières publications, il y a eu les premiers articles, etc. Et là, les gens sont venus de toutes parts. Et en Bretagne, il y a beaucoup de roues, plus qu'à Paris.
Ah, c'est marrant. Et alors, du coup, il n'y a pas que des roues bretons. Vous nous avez parlé d'une anecdote autour d'un petit garçon qui figure également sur l'expo. Je dis pas de bêtises, un petit gamin parisien. Les parents ont fait plusieurs allers-retours et le gamin était...
Oui,
on peut en parler.
Oui, on peut en parler, bien sûr. Ben, un jeune garçon de la banlieue parisienne qui, lui aussi, a été harcelé. Qui était vraiment à la dérive psychologiquement, et en fait sa maman a entendu parler de l'expo et de la démarche, parce que en fait en publiant mes choses sur ma page Facebook, ça a fait quand même pas mal de bruit, plus les articles, etc. Et elle a demandé si je pouvais le rencontrer. Donc ils sont venus de Paris pour la prise de vue. Donc on a bien discuté avec le petit gars. Il était pas très en forme. Et puis ils sont revenus pour le vernissage de l'expo. Et après il m'a remercié vraiment super chaleureusement, vraiment avec les larmes aux yeux. Et depuis sa mère m'a dit qu'il était super épanoui. Ça y est, il est dans les rails. Il est tranquille. Et ça s'est produit à plusieurs reprises avec des gens de tous les âges. Homme comme femme, le fait de pouvoir en parler, parce qu'il y a des gens qui restent, ils se fabriquent une carapace et ils restent renfermés sur eux-mêmes, et le fait de rencontrer quelqu'un qui parle d'eux, qui les montre sous un jour plutôt agréable et non pas qui les montre du doigt comme des bêtes curieuses.
Est-ce que je dis de conneries ? Je dis pas de conneries quand je disais tout à l'heure que tout le monde rigolait. Sur les affiches, tout le monde a l'air heureux.
Oui,
en tout cas,
oui, les gens sont heureux.
Il n'y a pas de gens tristes.
On a partagé des bons moments. Il y a des moments où j'enregistrais. Enfin, je faisais une petite interview, j'avais des petites questions type, etc. Et puis après, j'ai arrêté de poser ces questions parce que malheureusement, les gens donnaient toujours les mêmes réponses, des réponses plutôt tristouilles. Statistiquement, tous les roues ont subi des moqueries. Et puis après, selon la structure familiale, parce qu'il y a des parents qui ont honte d'avoir des enfants roux aussi, c'est aussi un truc comme ça. Donc, selon la structure familiale, ils arrivaient plus ou moins à s'en sortir pendant l'adolescence. C'est le passage le plus dur.
Délicat. Ouais.
Et il y en a beaucoup qui ont réussi à s'affirmer, à reconnaître et à se sentir bien dans leurs os, comme on dit, à partir de l'âge adulte. Mais il y en a, c'est pas du tout le cas, quoi. Ils continuent de raser les murs et ils sont super renfermés. Et pourquoi ? Ben, juste parce qu'ils sont des gens.
On va s'écouter un petit disque, justement. Vous nous proposez, on a fait une petite session Rhythm and Blues, et là,
un petit truc un peu cool, c'est la bière est bonne, et puis c'est le soir, et donc, un petit dub.
Voilà. Ah, ouais. Ah. Alors, vous devez connaître Dub Révolution sur Canal B. Vous devriez écouter,
Politician. Me not trust none of them boy, the road boy.
Again, woo. Big and blood clot, everyone, and tell the friends.
Bring it up.
Look them killers from a mold that they make on the street. And we rest but don't sleep till the job is complete. We'll make moves, yeah, we do things, we'll sit in the seat. And it's deep, cause there's people waiting on me to eat. I'm a provider. Anything test me, I'm a rider. Late night with my black sun
down, creeping up beside ya. You dip and slide, grip the thighs, work the hips, rub the middle, try get the prize. And if she's got the shake, try get the fries. And if you're lucky, might get the ride. You know the vibes, yo.
As long as you
woman,
live,
woman,
someone who loves you.
Yeah, you know, ragamuffin and we fill up our flow for real.
You're looking sharp, I pluck the right strings like I'm playing the harp. See the bitches think the riches, they like the way I ride. Deep down the dirty is the service I provide. Got a hook on desire from day one. Don't play dumb, the crumbs on the table aren't enough to make us stay long. Four courses feed her appetite for destruction, and in the end banging like percussion, no discussion.
You never find.
Yeah man, go on
and
tell your friends.
No matter where you
set the speed. Certain man is bushweed, the killer stay kiki. And I know a girl named Kiki where love try please. But dog life I soon leave to go and raise my seed. Until then, get them up and stretch and bend. If she say she don't bend, then we stretch her friend. With him killer with the ragamuffin style again. Then I real love the boy from when. You know the vibes, yo, yo.
You never find.
That's how we do. I represent for all the bubbling crew,
as long,
you know. Yeah, man. Listen.
Someone who loves you. Tender.
You know, you know, you know.
Check 1, 2. Slow fast, slow fast. The technique that I use, make her blow a fuse wearing nothing but shoes. Left her stuck on a cruise singing permanent blues. And I choose not to lose what most would abuse. Got much more in store with my filthy roar. Sweet frame, soda bottle, put her lips to the straw. Got him down on all fours just from flapping the jaws. Swinging bass, playing baseball just to even the score. Break it down.
You never find.
Yeah, you know. Ragamuffin and we'll full up our flow for real. Warm and easy for the crew inside. They know say we run wild, alright?
Zigzagging back and forth.
The way I
the pistols inside, the one you watch, I know. For all the bubbling crew for real.
Bubbling up, trouble enough.
Ouais, toujours en compagnie de Pascal Sacleux, photographe qui expose actuellement à l'aéroport
Rennes
Saint-Jacques.
Sur... Et qui semblait perdre un petit peu le moral sur, à propos de son exposition sur le roux. Vous n'arrêtez pas de lui dire et tout, tirouli, tiroula, ça ne va pas. Moi, j'ai des bonnes nouvelles.
Comment
il y a quand même au moins un domaine où le roux prédomine, et je le sais parce que, bah, par ailleurs, il m'arrive de travailler avec Plume et Pinceau l'émission, l'excellentissime émission de BD sur Canal B. Et on parle notamment de nombreux auteurs de BD. Est-ce que vous avez, enfin, on n'a pas la proportion, hein, quand l'auteur du blog sur lequel j'ai été n'avait pas la proportion, mais quand on relève les titres, c'est quand même un paquet de, comment dirais-je, de héros de BD qui sont roux. Vous en connaissez, vous, Jean-Loup?
Comment il s'appelle? Spirou.
Spirou, gagné.
Tintin.
Alors justement,
Tintin est-il Tintin, roux,
là,
ou
Tintin
bon
est-il roux, Tintin est-il roux, c'est l'objet d'un dossier.
Carrément.
Tout tintanophile s'est déjà posé la question, le reporter belge est-il blond ou roux? Selon le site rousseur.org, bon, je savais pas, j'ai pas été jusque-là d'aller dessus, notre journaliste préféré est roux, des doutes, dans plusieurs BD, il apparaît clairement roux, même si ce n'est pas flagrant. Y explique-t-on de façon un peu nébuleuse, en tout cas la question est sujette à de grands débats sur Yahoo Answer, à tel point que sur les albums, s'il est plutôt roux ou blond, ça serait peut-être plutôt une question de rendu d'impression, sans doute. Mais pour les adaptations en dessin animé, les auteurs avaient plutôt choisi le roux.
Donc Tintin serait peut-être plutôt. On en avait parlé au téléphone.
Oui.
Je sais pas si vous vous rappelez.
Oui, c'est vrai.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on peut rappeler que la rousseur, en fait, c'est pas une couleur, c'est une nuance.
Oui,
de
oui,
couleur.
Plein de nuances. Oui, oui. Les cheveux, les yeux, la peau.
Ah, il paraît.
Attendez, j'ai pas fini. Bah. Je termine parce que des héros de BD. Attendez, il est que 21h.
Oui, mais le sujet, c'était l'Expo Photo. Je vous rappelle, Roger.
Ouais, c'est mais pas des héros. Vous en connaissez d'autres?
Broussailles, mon héros.
Ouais, quand Broussailles. Petit, ouais. Broussailles, j'ai noté, mais il y en a quand même un qui est plus balèze que tout le monde devrait connaître, qui est Roux, bordel. Obélix et Roux, les amis.
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais on voit juste
Obélix et Roux. Mortimer, dans Blake et Mortimer, il est roux. La copine de Titeuf, elle est rousse. Nadia, elle est rousse. Le Peter Pan, Loiselle, il est roux. Boulet Bill, il est roux. Dans les tuniques bleues, il y a un sergent qui est roux. Adèle Blanc-Sec, c'est une rousse. Et enfin, pour terminer, il y a même un auteur de BD qui s'appelle Fabrice R, qui a abordé le problème dans un bouquin qui s'appelle Roux, d'ailleurs. Et lui-même étant roux, il a exposé sa vie de roux. C'est très rigolo, mais il est comme vous. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le plaintif, ni quoi que ce soit. Il est dans l'affirmation, la revendication, et le fait qu'on vous emmerde, quoi.
C'est ça, exactement. Ouais, on est fiers de notre identité et on est là, quoi. On existe.
Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, dans les pays du Maghreb, on utilise du henné.
Et le henné, il y a énormément de roux chez les Berbères.
Ouais. Ok, c'est plus d'accord. Ouais. C'est le, bah,
au Pakistan aussi, les anciens qui ont fait le pèlerinage à la Mecque se teignent les cheveux en roux presque rouge.
Est-ce qu'il y a des régions, des civilisations plus amènes pour les roux? De par le monde.
Je pense qu'en Amérique du Sud, on a meilleure presse.
Ah.
Ouais, on est plus apparenté au soleil.
Ah, une question du petit homme de Carpentras.
Oui, alors, il va intervenir.
C'est quoi le... Moi, j'avais j'avais un copain roux, qui avait des cheveux longs et tout, et il disait non, je suis pas roux, je suis blond vénitien.
C'est ce que disent les gens pour se protéger, en fait.
C'est ça.
C'est comme s'ils avaient un petit peu honte. Moi aussi, on m'a dit, mais non, mais toi, t'es pas roux, t'es blond vénitien.
Ouais.
Non, donc je peux être ton pote.
Ouais, voilà, c'est ça.
Oui, oui.
Ouais, d'accord.
Oui, surtout qu'on est ceinture noire, 17e dame
de Copido.
Oui, là, c'est vrai, je vous trouve plus blond vénitien que roux, c'est vrai.
Alors,
on revient peut-être
sur le problème, avant de revenir sur l'expo, j'avais, à propos du roux, il y a quand même quelque chose qui est assez, ambigu. C'est-à-dire que d'un côté, on va gueuler sur les roux, et de l'autre côté, il y a aussi une attirance, notamment pour les rousses.
Ah, voilà.
Dont qu'elles seraient effectivement plus chaudasses, etc.
C'est ça. Ouais.
Et j'ai cru en trouver l'origine, en tout cas, chez Saint-Louis. Saint-Louis qui est quand même, il a fait quand même dans la stigmatisation des minorités visibles et invisibles, il a fait fort. C'est lui qui avait imposé aux juifs le port de la rouelle, hein, bien avant qu'Adolf Hitler ait l'idée de l'étoile. Mmh. Hein, une bonne rouelle pour vous dire que, si on veut lui quand même péter la gueule.
Voilà.
Voilà. Et les prostituées, vous savez que c'était vraiment lui un cubéniste chez cubéniste. C'est d'ailleurs que bien fait pour sa gueule, il est mort à Tunis pendant une croisade. Il était parti faire chier les Moulouds et puis il est mort de la peste. 1210. Et donc du coup, ce monsieur-là avait eu l'idée, une super bonne idée, de teindre les prostituées en rousse. Et selon l'auteur...
C'est plutôt
de...
une promotion.
Bah ouais, mais le problème, c'est que du coup, ça contribue, si vous voulez, à créer l'imaginaire des gens
le juif
l'idée
aussi
de la rousse incendiaire, perturbatrice des couples et compagnie.
Le juif aussi qui était représenté en
Judas.
Roux, en fait.
Judas, selon
la tradition, a la réputation
d'être roux, alors que chez les Sémites, en Palestine, on était quand même plutôt brun. Petit nécrochu.
Oh, vous avez vraiment pas de chance. Allez, je reviens sur l'expo. Moi, il y a un truc, vos modèles, justement. On parlait du gamin qui a fait un aller-retour. Comment vous avez chopé vos modèles? Vous avez une petite annonce?
Non.
Ou vous avez une position quand même assez privilégiée, je pense, au niveau de l'aéroport,
pour croiser les roues? J'ai à peu près 30% des gens que j'ai photographiés, je les ai rencontrés à l'aéroport ou grâce à des gens de l'aéroport.
Ah ouais.
Il fallait juste que je m'assure pour que ce soit cohérent, que ce soit pas des gens qui partent à l'autre bout du monde ou qui vivent à l'autre bout du monde. Mais c'était une très bonne vitrine. Et puis sinon, le bouche à oreille a fonctionné. Et puis sinon, j'ai abordé des gens dans la rue. Et puis voilà.
Et comment est le problème?
Tout le monde était d'accord.
Vous êtes roux.
Tout le monde était
d'accord.
Ouais, ouais, ouais.
Et ouais, c'est pas
au départ, il y a un petit peu de méfiance. Et puis finalement, on en discute, etc. Et en fait, les gens n'ont qu'une envie, c'est parler, se lâcher, vider leur sac, quoi.
Et donc, vous exposez à l'aéroport Rennes Saint-Jacques. Pourquoi vous exposez pas, je sais pas, dans une galerie ou une salle traditionnelle? Comment ça s'est passé en fait le déroulement
Bon, c'était très pratique d'y travailler, mais j'ai toujours voulu exposer dans un aéroport. Il y a plein de passages, il y a plein de gens qui viennent, et je voulais nous montrer à un maximum de gens en fait. Et là, c'est rigolo parce que les gens viennent, les voyageurs, etc. Ils se prennent en photo devant la fresque avec tous les portraits, etc. Et ça leur plaît, hein.
Alors justement, j'avais noté là les réactions du public. C'est quoi? C'est vous devez rigoler parce que vous êtes au boulot, vous entendez. Oh, t'as vu un peu comment? Qu'est-ce que disent les gens?
J'ai rien entendu de désobligeant jusque là. Il vaudrait mieux pas. Non, mais les gens, ça leur plaît. Ça, déjà, ça décore l'aéroport parce que l'aéroport c'est quand même un gros hangar avec plein d'écriteaux partout.
Ouais.
Et là, il y a pour la première fois une expo, donc c'est des gros tirages. Comme vous avez dit tout à l'heure, donc ça décore bien l'aéroport et les gens sont plutôt positifs.
Et alors justement, vous arrivez, vous avez fait vos photos, vous avez l'idée, vous avez contacté l'aéroport tout de suite ou c'est venu après?
Ouais, un soir, j'étais à la maison et j'ai dit bon, demain je vais voir le PDG et je lui dis que je veux faire une expo. Et j'ai fait ça. Le lendemain, je suis allé le voir et je lui ai proposé une expo et il a dit oui tout de suite. Il veut que l'aéroport soit un lieu de vie, etc. Donc, et partant de là, j'ai continué à bosser. C'était en octobre l'année dernière et j'ai continué à produire des portraits.
Parce que ça colle pile poil pour l'aéroport. C'est quoi le pourcentage d'avions qui partent vers les pays anglo-saxons, Irlande, Angleterre?
Oh, à peu près la moitié.
Ouais. Donc ouais, forcément, il y a plus de rouquins que s'il venait de. Désolé.
On dit pas rouquins.
Oui. Ah, comment? C'est péjoratif, justement.
Ça va, il allait craquer. Non, il y a un moment, il va.
Bah, je voudrais savoir. Rouquins. C'est péjoratif.
Ouais, rouquin, c'est péjoratif. En fait, il y a un suffixe, en fait, qui nous rapproche du chien, en fait.
Ah, ok, d'accord.
Ah, ouais.
Ouais, ça aussi, ça.
Donc, c'est marrant. Les traditions, on l'a vu dur. C'est marrant
parce
que. Il
y a un côté affectif dans
ouais, moi, qui ne suis absolument pas rouquinophobe ou qui n'ai jamais véhiculé la moindre de ces idées-là, le terme rouquin, je ne le trouvais pas péjoratif.
Ah, non, mais c'est tellement rentré dans les mœurs qu'on ne se rend pas compte. Mais pour moi, ça sonne comme bougnoule ou négro. On ne dit pas rouquin.
Même votre nègre musical, vous l'appelez rouquin souvent, là.
C'est irlandais. Ça, le rouquin.
Oh, attendez, merde, je ne savais pas quand il n'est pas là. Oh, désolé, j'ai fait une gaffe.
Ça, et donc, du coup, Jean-Loup parlait des institutions, mais là, est-ce qu'après l'expo, vous-même, comment il y a eu des retours de la hiérarchie qui ont dit, ouais, purée, il y a eu des. Comment l'expo, on en parle beaucoup. Est-ce que des médias se sont intéressés à l'expo?
Ouais, j'étais moi-même vraiment surpris. Il y a eu une couverture médiatique incroyable sur des quotidiens nationaux, sur différentes radios, sur le web bien sûr. On a eu vraiment une très très bonne presse, même sur Géo Magazine. On était sur la page anti-racisme sous la publicité du documentaire, enfin du DVD du documentaire I'm Not Your Negro là, qui est passé sur Arte, qui parle de James Baldwin. Donc il y a je pense que les gens en sont conscients et j'ai pas cette approche un petit peu bucolique du roux avec les étymologies etc. C'est vraiment un côté plus urbain et social en fait. Il faut qu'on arrête de parler des roux comme ça quoi. Et donc si les gens peuvent se sentir un tout petit peu aidés, un tout petit peu entendus ou écoutés, ça aura au moins servi à ça.
Puis l'ironie du sort, en fait, vous étiez en Afrique pour faire des photos, vous avez fait des pochettes de disques, etc. Et en fait, le buzz, le sujet, vous l'aviez sous la main ou sur la tête?
Sur la tête, ouais. Depuis toujours. Ouais.
Allez, on s'écoute un petit disque et on poursuit notre conversation parce que j'ai plein de choses à dire. Justement, est-ce que l'aéroport vous a un petit peu aidé? Comment vous avez? Ça coûte du pognon, ça. Comment vous avez financé tout ça? On le saura après, justement. Quel genre de morceau vous proposez?
Si c'est morceau de hip-hop, là, Love Comes and Goes.
Idiot and Double Dogs.
Mais on reste dans les années 70, on est d'accord?
Non, là, c'est 90. Ouh, le hip-hop, l'âge d'or du hip-hop, c'est vraiment 90.
Ah, je le soupçonne d'être
c'était
encore...
Comment il s'appelait Sidney, vous avez dû connaître ça, H.I.P., H.U.P.
Ben, année 90.
Première émission
de hip-hop. Il a le même âge que vous, hein.
Ben, je le sais, mais arrêtez de le faire. Première émission de l'émission de Sidney de hip-hop du monde, en plus, c'est vrai.
C'est incroyable, la différence.
Entièrement dédié. À l'époque, vous y êtes.
Je vous regarde tous les deux parce qu'avec vous, Jean-Loup, c'est incroyable.
En fait, la France était le deuxième pays après les États-Unis en matière de production hip-hop dans le monde.
Dans les années 80.
Ah ouais. Dans les années 90.
Grâce au fameux Sidney que les plus jeunes d'entre nous.
Et MC Solar.
MC Solar, oui, qui a popularisé.
Qui a inondé les ondes de.
Non,
de
et qui a montré que le rap, c'était pas forcément de Nick Tamer, c'était peut-être aussi de la poésie bien ciselée.
Oui, et puis avec un message.
Vous avez travaillé avec MC Solar?
Ouais.
Et alors?
Super type.
Ouais. Bon, ouais. C'est pas dans la
catégorie. Akhenaton de Hayam aussi, super.
C'est vrai?
Ouais, 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 vraiment.
Ouais, c'est marrant, ouais. Et puis les, c'est marrant, parce que les rappeurs, enfin, allez, ça n'a rien à voir avec les hauts. Les rappeurs, ils me cassent les couilles, dans le sens, dès qu'ils font un tube, etc., dès qu'ils vivent en chantant la misère, la galère, etc., etc., et dès qu'ils sont millionnaires, ils vont où? Aux États-Unis. Pourquoi ne pas payer d'impôts? Alors que dans...
Il n'y a pas qu'eux qui font ça. Non, les acteurs, les tennismans,
les politiciens. Les seuls qui sont revenus vivre dans leur quartier, qui ont essayé avec leur pognon de faire bouger leur quartier, c'est Hayam. C'est un des les rares rappeurs, je pense, qui existent, qui n'ont pas changé leurs idées ou qui vivent leurs idées quelque part.
Bon. Oui, et puis Joe Star et qui ont fait la même chose.
Des boobas qui viennent se faire du fric ou des lafouines et hop, et la fraternité, c'est inscrit aussi dans la devise de la France. La fraternité,
moi je m'en fous, ma bagnole, ça commence par payer dans le garage.
Dans la fraternité, ça commence par payer des impôts.
Sur la fouine.
Ça commence par payer des impôts qu'on a du fric déjà. Et pas aller aux États-Unis comme au Johnny, on peut en parler.
Ouais, ils y vont tous. Calmez-vous, mon Jean.
Saw you the day before your death, before you took your last breath. How many of my real niggas are still left? A lot got killed and filled a wooden box, box, and went out like docks. I can picture when you went down, just like a vex. Here one day and gone the next. We all make mistakes and these are the breaks, but I'm sick and tired of going to wakes and seeing an end to my friend. So we kicked it to the elder, get some brew and gin. Nobody said nothing, everyone was pissed as we got drunk and reminisced. At your funeral, your head we kiss. Didn't go to the burial, but you'll be missed. That's if you didn't know from your true friends and not your foes. 'Cause love comes and goes. Try to rob him because they knew when they did it they couldn't get away with it, so they killed him, took the dough and split it, thinking about the money and not his four kids. A couple got caught and now they're doing bids. Loot is worth more than a life, 'cause niggas living tripe. My man have four kids and a wife. Now the kids don't have a father and the wife don't have a husband, because when you did what you did, the future of his kids may fall down, fall down, fall down, 'cause he ain't around. I went to his funeral, thinking maybe soon it will be me. 'Cause Boston got a lot of jealousy. A lot of people just can't take it when another brother makes it. When he makes it, that's when they wanna take it. But there's one thing I know, I know, I know, I know. Love comes and goes. And I won't forget you. I wish you could have been there to see me grow up, come up like throw up and blow up as an entertainer. Entertainer, I think you would have been proud to see me at a show and move the crowd. Your best friend shot you over $5. That ain't right. The money matter and not the life. I wonder what you would have told me to get a girl and lay her. 'Cause my mom's told me you were a player. They tell me I'm your spitting image from the line of scrimmage, but you was wilding like my mother. I'm timid. God works in different ways and it shows, and everybody knows love comes and goes. Black.
Voilà, toujours... nous sommes toujours en compagnie de Pascal Sacleux. Comment je vous ai niqué. Toujours en compagnie de Pascal Sacleux, photographe,
qui nous parle de son
responsable de l'exposition qui se tient en ce moment. Quel nom elle porte d'ailleurs ?
Bretagne Ornement de Rousseur.
Voilà, on l'a même pas dit. Bretagne Ornement de Rousseur, alors que vous avez une question qui fâche, à savoir comment...
Le pognon, c'est-à-dire vous allez voir votre directeur à l'aéroport, ouais, j'aimerais bien exposer des photos, il vous dit ok, pourquoi pas, et là, ça se concrétise et
ça s'arrête là.
Ça s'arrête là,
ouais. Ok, on
met
l'air.
On met à disposition les locaux.
Voilà, c'est ça,
okay.
Et le reste c'est pour moi.
Ah donc ça coûte du pognon quand
ça
même.
Ça coûte beaucoup de pognon.
Ah ouais. Comment vous avez fait pour financer ça ?
Alors j'ai voulu aller sur une plateforme de financement participatif, mais je voulais pas aller sur des plateformes internationales genre Ulule, KissKissBankBank,
etc. Excusez-moi, vous ne vouliez pas aller sur des plateformes
internationales.
Ah ok.
Non mais c'est normal, vous êtes pas tout jeune non plus.
Et donc j'ai trouvé une plateforme bretonne qui s'appelle Kengo. Et qui finance des petits projets comme le mien, c'était pas des centaines de milliers d'euros. Et je leur ai proposé ce truc-là. On est parti de zéro, etc. Et en fait, à la fin, ils étaient à fond, quoi, parce qu'on s'échangeait les promos, les articles, etc. Et ils sont super, quoi. Ils ont vraiment été vraiment participatifs sur.
Mais vous, de votre côté, par contre, en échange de eux, leur travail pour amener le pognon, vous deviez vous démener, par exemple, pour faire un article dans Bikini, ce genre de choses et
ouais.
Tout.
Ouais, ouais.
C'est ce que vous avez fait.
Faire de la promo de mon côté. Eux faisaient de la promo du leur parce qu'ils ont intérêt à ce que le projet fonctionne. En fait, si vous atteignez 70% de la somme dont vous avez besoin, le projet est maintenu. Si vous n'atteignez pas 70%, l'argent est rendu aux contributeurs.
Aux souscripteurs.
Ouais. Et donc ça dure 60 jours et donc en 60 jours, on a atteint 87%. C'était pas mal.
Qu'est-ce qu'il y a, c'était quoi le déclic ? Vous êtes adressé à votre communauté ou c'était...
À ma communauté, bien sûr. bien sûr.
Je savais que...
À mes amis.
À vos amis, mes amis justement. On parlait de Dynastie tout à l'heure, qui parlait d'une chanson qui s'appelle « À nos amis, à nos amis ».
Mais pas que, hein. On a des sympathisants.
Ouais, mais
est-ce que ça... Vous êtes donc une secte, il m'a convaincu, j'en ai.
Est-ce que
ça
t'a ressort ou c'est vraiment vous avez présenté le projet de quelle manière pour séduire quand même cette personne pour finalement financer
En fait, vous
projet.
Avez une fiche à remplir avec un petit CV, avec la démarche, etc. Et puis j'ai aussi des amis, même des non-roux, qui ont pas mal aidé. Et puis on en a parlé au fur et à mesure, mais beaucoup des gens que j'ai photographiés ont contribué. Et on a atteint donc 87%, c'est pas 100%, ça veut dire que le reste c'est pour ma pomme en fait.
Alors par contre, est-ce que cette plateforme de comment cofinancement on appelle ça, je sais pas,
financement participatif,
ils vous prennent des sous là-dessus, comment ils vivent?
Oui, ils prennent un petit pourcentage.
Mais il faut bien
c'est comme ça qu'ils c'est normal, ils ont été actifs, ils ont été vraiment ils ont participé, ouais, vraiment de leur côté aussi et c'est grâce à eux qu'on a eu la première interview sur Rennes Info Autrement, un site local. Et à partir de là, ça a été la flambée, quoi.
Alors moi, ce que j'aimerais bien, par contre, moi, ce qui me manquerait, ça serait, est-ce que vous allez, ce qui me manque d'ailleurs, c'est est-ce que vous allez publier un espèce d'ouvrage, dans un musée, un catalogue d'expo, au moins un tirage, est-ce qu'il y aura un catalogue d'expo qui nous permettrait justement d'avoir une copie de votre travail?
Eh bien, les deux. En fait, pour certains contributeurs, il va y avoir un livre photo, donc c'est plutôt un album, en fait, une compile de tous les gens que j'ai photographiés. Mais dans les projets, effectivement, j'ai envie que cette expo voyage, parce que d'abord, ça rentre pas dans ma cave, hein, c'est vraiment trop gros.
On
peut les rouler, mais après, voilà. Et il faut absolument que ça puisse voyager un peu partout. Et en parallèle, on a le projet de faire un bouquin. Et pareil, avec un axe plutôt urbain et revendicateur.
Et ça, c'est dans toutes les minorités, parmi les minorités, vous disiez au téléphone, minorité non visible, c'est ça? Ou visible?
Visible.
Ouais, minorité visible, mais au rang de quel? À part les roues, effectivement, qu'on fait yèche, ce qu'on appelle minorité visible, ça peut être par exemple les noirs ou les asiatiques, etc.
Les aveugles,
les musulmans, les gros, ceux qui bégayent, enfin tous ceux qui à l'école sont un peu différents et qu'on décide de faire chier, en fait.
Alors justement, j'embraye là-dessus parce que vous avez vu Jean-Loup, tout à l'heure, il était 9h30, il est déjà presque 10h-10. Parmi vos projets, est-ce que ça va être de rebondir justement sur la publication d'un ouvrage plus complet? ça veut dire avec d'autres modèles.
Oui, je
toujours sur le même thème ouais. ou sur d'autres minorités.
Non, non, pour l'instant, chaque chose en son temps. On fait ça aussi dans les arts martiaux. Donc non, non, je vais continuer. D'ailleurs, je continue de photographier des rousses et des roux pour avoir un maximum de portraits à montrer aux gens.
Alors j'ai un excellent ami, mais c'est un vieux roux, il est plus tout à fait roux. Est-ce que vous faites le vieux roux ?
Je fais le vieux roux aussi, même s'il a les cheveux blancs.
C'est vrai ?
Ouais, ouais, ouais.
Il n'est pas très vieux.
C'est pas ça... un concours de bestiaux.
Parce qu'il commence à perdre ses dents, c'est comment
dire. Parce qu'une particularité des roux aussi, c'est qu'ils ne grisonnent pas.
Non, c'est pas vrai.
Je lui l'ai dit.
Pas de cheveux blancs. Ah, pas de cheveux gris.
Bah, forcément, puisque on le gris, pas, c'est du noir
ils,
et du
ils
blanc.
Ils vont passer de l'étape du roux au blanc, direct. Et ils vont passer par des étapes intermédiaires pour de toute façon finir au blanc.
Ouais, il va finir beige.
Peut-être.
Une histoire de
j'ai de une chromie. j'ai une photo de mon vieux roux, je vais vous la montrer tout à l'heure. Et donc du coup, ça va être une expo. Est-ce que c'est une expo qui pourrait se déplacer dans les écoles?
Elle pourrait se déplacer dans les écoles.
Parce que c'est pas con, mine de rien, dès la maternelle finalement.
Exactement. Ça devrait aussi être, bah, de toute façon, le respect en général devrait être un peu plus enseigné dans les écoles et apprendre aux gens à ne pas se moquer de ceux qui ont l'air différents parce qu'ils sont bleus, verts, jaunes, gros, petits.
Ça pourrait être rigolo, un kit.
Un kit, ouais.
Bah ouais, un kit qui circule, pouf pouf. Je me rappelle une exposition très intéressante qui d'abord a été publiée, enfin exposée à Paris, et qui avait été publiée, exposée à Rennes. C'était pareil, tous parents, tous différents. Et on nous présentait des photos de personnes très foncées, hein, des Africains. Et comme par hasard, ces gens-là, on les reconnaissait. Pourquoi on les reconnaissait ? Parce qu'on a toujours continué de dire, ils se ressemblent tous. Non, il y avait Nelson Mandela, il y avait Cassius Clay et Martin Luther King. Comme par hasard, on les reconnaissait. Et oui, parce que quand ce sont des Noirs célèbres, on les connaît, puisque effectivement, on peut les identifier. Et ça relève du même problème, en fait.
Oui, exactement. Il faut bon des roues célèbres, il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a quelques actrices.
Ah, il y a Judas.
Oui, mais ils sont pas passés à la télé récemment.
D'abord, on va pas revenir.
Ils sont pas passés à la télé récemment. Mais c'est vrai qu'à part les actrices, c'est vrai que chez les garçons, c'est pas.
Non, pas beaucoup. Hein.
Alors il y a eu d'excellents bouquins quand même de Jules Romain, Poil de carotte quand même.
Ah oui, ah oui.
Est-ce que c'est pas dans la littérature peut-être le point de départ d'une espèce de... Attendez, vous êtes sérieux quoi?
Oui, parce qu'en fait, cette histoire, même si l'expression est passée dans le domaine public en termes de moquerie, c'est quand même l'histoire d'un petit garçon qui était roux, que sa mère n'aimait pas parce qu'il était roux, que son père aimait mais il n'était jamais là. Et ce petit garçon, pour compenser ce manque d'affection, attirait l'attention en étant cruel avec les animaux. Alors moi, c'était dans le programme de littérature en 5e. Et donc, quand il étrangle le petit chat, tout le monde se retourne et me regarde. Et j'ai redoublé la 5e. Deux années de suite, tout le monde s'est retourné. Bon, j'ai pas tué le petit chat, quoi. C'était
Bon, maintenant, vous les tuez à coups de nunchaku,
Je tue ceux qui se moquent de ceux qui tuent les petits chats, ouais.
Justement. On s'écoute un petit disque et après, il va être le temps de passer à la conclusion. On s'écoute quoi, je sais pas, c'est...
Listen de Simande.
Simande. Simande.
Simande.
C'est pas du reggae, ça,
Non, non, pas du tout.
C'est justement.
Rien à voir. Un groupe de soul anglais des années 70, toujours.
Oh, c'est pas de la soul? Oui, comment vous connaissez? Bah, non, je me suis planté. Désolé.
Listen, brothers. This has got a lot to do with it. And my sister. So that's concern you too. You waste your time hanging around with all those freaks out there in town, not knowing all the time they're laughing at you like a clown, laughing at you like a clown. Time is right now, right now. No time to waste, my friend. You gotta act now, act now. Come around, one day you'll see people who
people treat it as their destiny. It's nothing so strange, my friend. Only folks who wanna be just men. Only folks who wanna be just men.
Terminer l'émission vite vite, oui, alors que après, Pascal avait un message.
Oui, après ce morceau très suite, vous avez l'air amoureux, j'ai l'impression.
Ouais, je le suis. Ouais, bah, je fais un bisou à ma chérie Marie.
Voilà. Et peut-être vous avez des enfants en fait.
Oui, j'ai une grande fille de 24 ans.
Une petite question indiscrète, elle est rousse?
Elle est presque rousse, elle est métisse.
Alors, ça veut dire quoi, métisse?
Ça veut dire qu'elle fait partie d'une minorité visible. Elle a des reflets roux.
Alors justement, comment elle le vit, elle est...
Elle est totalement épanouie.
Bah oui, parce que c'est plutôt à la mode. La roussitude chez les femmes, elles font souvent des petits reflets au burn.
Elle a un afro énorme. Et puis,
ah oui, d'accord.
Et puis elle a été élevée comme ça, on représente.
Chez les Antillais, mon papa est Antillais. Chez les Antillais, on les appelle des chabins, les roux.
Ouais, on l'appelait comme ça quand elle était petite. Elle était un peu plus blonde, mais là, elle commence à roussir.
Chabin.
C'est bon signe.
Alors, l'expo est visible jusqu'à quand? Elle est pas.
Jusqu'au 15 juin.
15 juin, ouais, ça donne le temps. Oh, c'est quoi ça, 10 minutes, 15 minutes du centre-ville.
Et je le rappelle, c'est gratuit. Vous pouvez faire comme Jean-Louis et moi, vous y rendre. On a eu l'impression de partir en avion.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, voyant les gens avec leurs bagages.
Vous allez vous enregistrer.
Oui. Sauf qu'on n'avait pas de bagages.
J'avais qu'une seule peur, c'est que la police nous arrête parce qu'on avait. J'ai l'impression qu'on avait des drôles de têtes.
On a fait quelques allers-retours avant de vous trouver. C'est vrai qu'on avait des têtes. Enfin, surtout vous, Roger, vous aviez des têtes de suspect.
Et on n'arrêtait pas de faire de l'aéroport de long en large. Et on a fini par vous trouver.
Ah, j'étais au front.
Ouais. D'ailleurs, vos collègues nous ont dit tout de suite, pas de problème.
On trouvera...
Ah, mais mes collègues m'ont vraiment aidé, hein.
C'est vrai?
Tout du long. Ah oui, oui. Dans mon service, ils m'ont vraiment soutenu, dans mon obsession.
Donc on peut leur faire un petit coucou.
On peut leur faire un coucou au service passage de l'aéroport, ouais.
On retrouvera, vous avez sûrement des sites, des machins, des Facebook, etc., qu'on retrouvera sur le blog.
Sur ma page Facebook, Pascal Sacleux, photographe.
On va tout envoyer sur, il suffit de taper les Grignoux sans X, sans S, sur n'importe quel moteur de recherche, mais je vous conseillerais plutôt Google. Je sais pas pourquoi. Il paraît que quand je dis Google, j'ai 10 centimes qui tombent. Enfin, il paraît.
Allez, et c'est parti.
On va conclure avec un dernier morceau, je sais pas quel.
Non, on n'en a pas calé, là.
On n'en a pas calé parce qu'on
n'a pas vraiment le
temps. On n'a pas vraiment le temps. On va dire au revoir à Pascal et on va passer peut-être une pub ou deux pour laisser à notre ami.
Non, que 56.
Est-ce que je peux vous poser une question?
Oui. Oui.
Pourquoi est-ce que vous avez voulu me recevoir? Je vous remercie de m'avoir invité, mais pourquoi est-ce que vous avez
parce que normalement on avait un invité normal qui nous a pété dans les pattes il y a 2 ou 3 jours et se dit tiens, on s'est rabattu finalement sur une minorité visible.
En pas fait, trop déçu?
Non, c'est pas vrai. En tout cas, moi je peux vous le dire, c'est parce que d'abord j'ai toujours eu des amis roux. J'ai rencontré ma femme avec un roux, grâce à un ami roux d'ailleurs. Ma femme, c'est sa sœur, voilà. Et du coup, je faisais partie des frics moi dans la salle de classe. De toute façon, les frics, il y avait le binocleux, le gros. Et le roux. Ben voilà. Voilà pourquoi peut-être depuis que je suis tout petit, j'étais à la campagne, j'ai toujours eu des amis roux.
Et binocleux avec les cheveux un peu crépus.
J'étais binocleux crépus, c'était bien. Je faisais binocleux et arabe en même temps. Bien. Donc j'avais les deux. Et immanquablement, je me retrouvais assis à côté d'un roux. Et on était toujours potes, ça se passait très bien. Et puis, voilà.
La question pour conclure, c'est quoi votre blague favorite sur les roux?
Alors j'en ai imprimé.
Il y en a une qui est sympa sur pourquoi
laquelle, au paradis. Est-ce que les roux iront au paradis? Et la blague, c'est oui, parce qu'ils ont déjà été. Dieu ne punit jamais 2 fois. Voilà.
C'est beau.
Donc vous irez au paradis direct. On dit salut à la semaine prochaine. On se passe peut-être une minute de disque et puis voilà.
J'ai calé Bill Withers, Who Is She.
Oui.
Super.
C'est parti. Bien. Salut.
Amen. We pay. Just tried to stare me down, and when I looked at you, you looked at the ground. I don't know who he is, but I think that you do. Dadgum it. Who is he and what is a he to you? I have something in my heart and in your eyes. Tells me he's not someone just passing by. And when you cleared your that's your cue. Dadgum it, who is he and what is a he to you? Now when I add the sum of you and me, get confused and I keep coming up with 3. Too much.